Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
J'allais voir mon médecin, qui était mon médecin depuis quand même longtemps, donc qui me connaissait bien. Et à l'époque, j'ai commencé à demander des anxiolytiques, puis des antidépresseurs, puis des somnifères. Et un jour, il m'a dit non. Il m'a dit, je vais vous faire une ordonnance maintenant. Et il m'a écrit, changez de travail. Je vais arrêter de vous donner des pilules et vous allez faire quelque chose qui va être important pour vous. Parce que là, je ne vois pas de perspective. Et à chaque fois que vous me parlez de quelque chose, vous me parlez de votre rythme de travail, de votre sommeil à cause de votre travail, de votre alimentation à cause de votre travail. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment un problème. Est-ce que ça vaut la peine? On s'est dit dès le départ, on veut que le chemin soit aussi beau que l'objectif. Parce que si on passe 10 ans, 20 ans à réaliser un truc dont on est fier, mais pendant 20 ans, on en chie, on perd des gens, on souffre, on se met en difficulté, on aura merdé. Et on ne veut pas arriver à la fin à réussir l'objectif pour dire « si j'avais su, je ne l'aurais pas fait ».
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Je ne peux évidemment pas commencer ce premier épisode de l'année sans vous souhaiter une magnifique année 2021 sous le signe de l'écoute de votre petite voix. Aujourd'hui, je vais vous présenter une femme incroyable. J'ai pris énormément de plaisir à l'interviewer car son univers est très clairement très éloigné du mien. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre pause, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Revenons-en à Claire. Claire vient d'un milieu ouvrier. Suite à son diplôme à Sciences Po Lille, elle est partie un an dans la jungle de Calais. Elle a ensuite été responsable d'un centre d'hébergement d'urgence pour Emmaüs. Elle quitte alors cet univers très difficile pour en affronter un autre, celui de la communication au sein de la région. À 25 ans, elle décide de partir vivre à la campagne et créer l'Amande Verte. 10 ans après, elle vit de son projet et Claire se présente à la présidence de la région Bretagne. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Claire Desmarais-Poirier.
Bonjour Claire.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît?
Eh bien, j'ai choisi une paire de bottes.
Ouais, pourquoi?
Parce que pour moi, c'est le symbole de cette vie nouvelle, parce que c'est aussi être droit dans ses bottes. Et j'aime bien cette idée. Enfin, voilà, pour moi, j'ai jamais tellement été à l'aise en talons, par ailleurs. Et il y a vraiment, enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment le symbolique de cette vie paysanne que j'ai choisie. C'est mon quotidien. Je sors de chez moi, été comme hiver, en bottes. Et voilà, c'est aussi dans ces bottes que je mets chaque jour un pied devant l'autre. Donc voilà, je pense que c'était un objet qui me symbolisait bien.
C'est une belle métaphore, bien dans ses bottes. Et est-ce que tu peux nous raconter, du coup, avant de nous parler de cette nouvelle vie, d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi?
Moi, j'ai grandi en Normandie, pas loin du Havre. Mon père travaillait sur la zone industrielle à côté du Havre, là, Gonfreville-l'Archer. Chez... N'importe qui a un jour passé le pont de Normandie connaît cet endroit totalement lunaire.
Ouais.
Et donc j'ai grandi dans cet espace-là qui était à cheval entre une zone rurale réellement rurale parce qu'autour de moi il y avait quand même une activité agricole qui était très préservée, mais depuis la fenêtre de ma chambre je voyais la torchère qui s'allume et qui s'éteint, donc aussi avec cette présence de l'industrie qui est très forte.
Ouais.
Et donc voilà, je sais aussi ce qu'impliquait ce modèle-là sur nos vies, sur la santé des enfants, sur celle de nos parents qui travaillaient dans ces espaces-là. Voilà, il y avait un rapport au vivant, à la nature qui était assez paradoxal en fait. qui était très présent dans mon quotidien et en même temps qui était très défié par cet espace qui était juste à nos pieds en bas de la falaise. Et moi, je suis partie à 17 ans faire mes études.
Ouais.
Parce que voilà, c'était le chemin de tous les jeunes, c'est le chemin de tous les jeunes ruraux. Je suis partie à Lille pour faire Sciences Po. Et puis j'ai passé une dizaine d'années à Lille après. Voilà.
Et du coup, quand il s'est, avant peut-être de savoir comment ça s'est passé pour Sciences Po, quel type de petite fille tu étais?
J'étais plutôt aventurière. Moi, j'ai grandi sur un vélo, clairement, depuis que mes parents nous laissaient une grande liberté. Peut-être un peu contrainte par leur rythme de vie qui était. Ma mère faisait les gardes, donc du coup.
Parce qu'elle faisait quoi comme métier?
Elle est sage-femme.
D'accord.
Donc et mon père était bossé à l'usine, donc ils avaient des rythmes de travail assez compliqués et des besoins de récupérer qui faisaient que dès qu'on a pu être un peu autonome, on nous laissait énormément de liberté. J'ai même du mal à considérer que, enfin, maintenant que je suis mère, que je puisse faire la même chose, parce que je pense qu'on avait 7-8 ans et on pouvait faire des kilomètres à vélo. On était libre de vivre notre vie. Il n'y avait pas d'inquiétude, il y avait beaucoup de confiance. Et j'en ai beaucoup profité de cette confiance.
Ça, c'est une vraie, cette petite parenthèse, c'est une vraie question que, enfin, moi, je me pose souvent. Bon, après, moi, j'ai grandi à Paris dans une espèce de carcan où on était un peu surprotégés, mais bon, on vivait à Paris. Et mon mari, lui, a grandi à la campagne et il me dit, à l'âge de notre fils qui a 9 ans, il me dit, mais moi, je partais des heures faire du vélo, mes parents, ils savaient pas du tout où j'étais et tout. Et pendant le premier confinement, on était du coup à la campagne aussi et il me disait mais on peut le laisser partir, se promener. Alors bon, bah pas non plus des heures parce qu'on était confinés, mais il me dit on est dans un village, il y a personne. Et moi, je me disais mais non, mais je peux pas laisser mon fils partir. J'étais super inquiète en fait et je me disais mais est-ce que le monde est un peu plus taré qu'avant ou est-ce que finalement on est plus protecteur?
Moi, je pense qu'il y a autre chose, c'est que quand on dit on est à la campagne, il est seul, c'est pas vrai. C'est-à-dire que mes parents, ils savaient qu'entre chez moi et le bourg où on allait à la boulangerie chercher des bons becs et au terrain de foot et à l'arrêt de bus où on allait poser nos fesses pour se raconter nos histoires d'enfants, il y avait beaucoup de gens en fait.
Ouais.
Et que toute cette communauté veille sur nous. Il y avait les parents des autres enfants, il y avait l'assistante maternelle chez qui on était gardé, il y avait tous les anciens du village qui squattent devant l'église et qui refont le monde, et qu'en fait il y a une communauté qui veille sur nous et que on était très protégés justement parce que tout le monde veille sur les enfants au bourg quoi. Et donc je pense que là-dessus il y avait à la fois le fait d'être rassuré sur le fait aussi qu'il y avait une forme de contrôle social sur le fait qu'on fasse pas de bêtises et sur aussi la vigilance par rapport au fait que si on tombe, si on se blesse, s'il arrive quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui veille et qui nous aidera et qui nous accompagnera là-dedans. Donc je pense qu'au contraire, c'est plutôt la confiance dans la communauté qui permet de laisser cette liberté que le sentiment qu'il y a personne et donc les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent quoi.
Ouais, c'est sûr. Donc du coup, tu étais une petite fille aventurière et quand tu avais 6 ans, tu te disais quand je serai grande, qu'est-ce que je ferais?
Eh ben, quand j'étais petite, enfin en tout cas quand je sais pas si c'était 6 ans mais peut-être une dizaine d'années, je voulais soit faire des parfums, soit être pharmacienne. J'avais une grande passion pour la pharmacie. Je demandais à ma mère de me ramener les petits magazines qui donnaient à la pharmacie et je lisais ça avec grande attention. Du coup, il y avait ce truc là, après assez rapidement en tout cas dès que le fait politique s'est imposé à moi, il y a quelque chose de ce côté-là qui s'est éveillé et qui était assez fort. Voilà, pour moi, l'agriculture, c'était pas une vocation d'enfant. Autant le lien à la nature était très présent. Mes parents ont pas tellement joué un rôle là-dedans, ou alors un peu malgré eux, c'est que comme ils travaillaient beaucoup, on était gardés par une nourrice. Enfin, à l'époque, on disait nounou, une assistante maternelle. Et en fait, Étienne et Françoise étaient un peu des pionniers de la bio à l'époque. Enfin voilà, moi je découvrais le sucre brun, les produits non raffinés. Ils avaient un grand jardin. Ils assuraient quand même une grande partie de leur autonomie alimentaire au quotidien. Le matin, on allait à la ferme qui était au fond du champ. Donc eux, c'était nos voisins. Et puis il y avait une ferme au fond. On allait chercher le lait. On faisait le chocolat avec le lait de la ferme. Et il y avait vraiment ce truc de à la fois d'engagement sur vraiment l'agriculture biologique, ce que ça signifiait, etc. Et avec un volet franchement politique, mais aussi avec un volet très pratique où on faisait les confitures, on accompagnait Françoise tous les matins, on allait chercher les œufs, on s'occupait des poules, on participait à ce rythme de vie-là. Et il est clair que ça a construit pour moi un quotidien, un imaginaire qui est très fort, quoi. Quand je vois ma fille aller chercher les œufs des poules, je me revois dans cet espace. Et c'est dans cet espace que j'allais chercher les œufs, que je les tenais fort contre moi, que j'avais trop la honte quand je tombais et que je les cassais. Enfin, ces émotions-là, elles sont attachées à ce moment de vie et à ces gens qui ont énormément compté pour moi, quoi. Donc, je pense que oui, c'était ce truc-là, il était présent, mais c'était pas pour moi une perspective de carrière, en tout cas. Voilà, parce que ce que j'ai appris à faire aujourd'hui, c'est à dissocier le choix de vie et le choix professionnel, et la question de la carrière.
Pourquoi ?
Parce que pour moi, enfin en tout cas quand on est ado, on nous dit choisir sa vie, c'est choisir son métier. Et aujourd'hui, ce que je défends moi, c'est que choisir sa vie, c'est pas que choisir son métier. C'est aussi choisir où on l'exerce, dans quelle communauté on s'y intègre, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait ce métier, parce qu'en fait, il y a mille manières d'être agriculteur, d'être médecin, d'être même d'être comptable, ouais. En vrai. Et donc du coup voilà, je pense que ça c'était un truc essentiel et c'est ce qui a changé beaucoup de choses dans ma manière de concevoir mes projets professionnels, mon engagement, ma vie quotidienne.
Ça, je pense que c'est un truc, c'est un vrai sujet sur. On parlait énormément en ce moment de reconversion professionnelle. Et moi, je ne prône pas le fait qu'il faille changer de métier à tout prix parce qu'en fait, je pense que tout le monde n'a pas besoin de changer de métier parce que changer de métier, ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à la fois au niveau perso et professionnel, évidemment. Et en fait, en effet, on peut très bien faire le même métier, mais en effet, avec plein de façons différentes d'aborder, avec des prismes différents. Et ça, c'est vrai qu'il faut, se dire, si je fais ce métier-là en freelance, ça sera pas du tout la même chose que si je le fais dans un grand groupe. Enfin, c'est se dire de quelle vie j'ai envie et adapter son métier à ça, en fait.
Oui, puis c'est aussi considérer les compétences comme une boîte à outils et pas comme un carcan dans lequel on s'intègre. Et on pourrait pas en sortir, on pourrait pas exercer cette compétence dans un autre cadre, qu'il soit géographique ou entrepreneurial ou culturel. Je pense que c'est ça le décloisonnement principal, c'est de se dire que on peut remettre en cause un certain nombre de choix, y compris celui d'une formation, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens de notre génération à qui qu'on a poussé à mort sur la scolarité, surtout quand on est issu. Je sais même pas si c'est surtout quand on est issu d'un milieu populaire. Je sais que quand on est issu d'un milieu populaire, il y a cette question de réussir, de pas vivre les mêmes contraintes de vie. D'un travail à l'usine, c'est très dur physiquement, et de se dire je veux que mes enfants aient pas à vivre cette contrainte, donc je pense qu'on est poussé très fort sur des métiers intellectuels en se disant que ça va nous apporter un confort de vie que nos parents ont pas eu, et je pense qu'aussi pour des gens qui sont beaucoup plus privilégiés, la peur de la chute sociale, la nécessité de maintenir peut-être ce qui a été créé ou peut-être une forme de capital familial fait qu'on attend des enfants qu'ils amènent et en plus, dans les familles où la réussite professionnelle et scolaire des enfants est un gage de la réussite des parents. Et donc, du coup, il faut que les enfants réussissent pour que les parents prouvent qu'ils ont des enfants qui réussissent. Fait que des fois, on a beaucoup de choix qu'on fait dans nos vies qui ne sont pas des vrais choix. Et surtout, les choix, on va se dire les choses, les choix qu'on fait à 18 ans, ce n'est pas des vrais choix. On n'est pas assez mûr pour les faire. Souvent, on est très guidé par ce qui nous entoure. Et il suffit qu'on ait une facilité scolaire dans un espace, les parents poussent, ou un oncle ou n'importe qui dit « c'est ça, c'est fait pour toi, c'est exactement ce qu'il te faut », il suffit que ce soit un peu quelqu'un de charismatique, on se dit « ok, ouais, il a raison ». Et puis, en fait, surtout, on va nous donner la confiance dans cet espace-là, la confiance, c'est ce dont on a le plus besoin quand on est ado, donc on y va et on plonge. Et en fait, peut-être que 5 ans plus tard, quand on a maturé ce truc-là et qu'on se dit « mais c'est pas à moi que ça appartient, ce truc-là, c'est un truc qui a été projeté sur moi », c'était confortable de le vivre à un moment, bon, je peux m'en libérer. Pour moi, ça, c'est très différent de, par exemple, en tout cas pour moi, la politique, c'est mon appétence.
Ouais.
L'engagement, c'est mon chemin. Donc maintenant, la réalité, c'est que je ne pouvais pas le vivre de la manière dont ces outils étaient à ma disposition quand j'avais 21 ans. Mmh. Donc il a fallu que j'aille faire d'autres choses.
La politique, tu disais qu'un jour, tu as une espèce de révélation, ça s'est passé comment ?
C'est pas une révélation, je pense que c'est un truc qui s'est construit par strates. mais j'avais quand même une curiosité. Je lisais des choses qui n'étaient pas tellement de mon âge. Je posais beaucoup de questions. J'étais très intéressée à ce qui était raconté par les médias. J'étais assez gourmande d'aller chatouiller un peu mes parents là-dessus parce qu'eux sont quand même tous les deux syndicalistes, très engagés. Et donc, j'aimais bien interroger d'où venait cet engagement pour eux, quand ils faisaient la grève, quand ils manifestaient, pourquoi. Je dois avouer que j'avais aussi j'aimais bien ces univers-là. C'est-à-dire, quand on est pré-ado, accompagner les parents aux manifs, dans une ville très ouvrière, avec une culture de classe populaire très affirmée et tout ça. Bon, voilà, c'est quand même... Il y a une forme de folklore qui est assez chouette. Et puis, il y a beaucoup d'adultes qui sont, par la nature de leur engagement et par leur façon de considérer... qui ne sont pas agistes, en fait, simplement. Donc, qui, quand on leur pose des questions, ils répondent simplement... partagent leur engagement. Dans les amis de mes parents, il y a beaucoup de gens qui ont compté dans la structuration de mes idées politiques et de mon parcours. Je pense notamment à Serge qui était le bibliothécaire du comité d'entreprise de l'usine de mon père. Donc toutes les semaines, on allait emprunter des livres là-bas. C'était notre bibliothèque, quoi, clairement. Et qui petit à petit m'a sorti des bandes dessinées pour m'amener des choses parce que je lui posais des questions, parce qu'il voyait que j'avais une curiosité et parce que lui était un militant syndicaliste très engagé, quoi. Quand j'ai passé les concours de Sciences Po, je venais chercher les livres du coup qui étaient au concours. Et il disait « Ah, ils vous font lire Le Capital de Marx, mais c'est le manifeste du Parti communiste qu'il faut vous mettre entre les mains. » Et voilà, c'est des gens comme ça qui ont accompagné mon parcours et qui m'ont éveillée. Et après, évidemment, le volet scolaire, il a fallu une rencontre parce que mes parents, Sciences Po, pour eux, ça n'existait pas. Et en fait, j'ai une prof en seconde, une prof de français, qui avait un peu capté mon profil. J'étais pas une très bonne élève du tout. J'ai jamais été scolairement très active, on va se dire les choses. Mais je participais beaucoup, j'étais très intéressée, quoi. J'ai toujours beaucoup interagi avec les enseignants, posé plein de questions et tout ça. Et elle m'a dit... Et j'arrivais pas à choisir en seconde, il faut s'orienter. Bon, clairement, les filières scientifiques, c'était pas évident pour moi parce qu'il fallait être scolaire. Mais j'adorais la biologie, j'étais déjà très dans les trucs nature et tout ça. Je faisais déjà de l'ornitho, de la bota et tout, donc... J'avais quand même cette appétence-là, mais je voyais que ça allait être compliqué. Et puis, entre elle, ES, je ne savais pas quoi. Et donc, j'en avais parlé avec elle, qui était un peu notre, référente.
Principale.
Ouais. Je ne suis même pas sûre, mais... Elle incarnait quelque chose de différent aussi dans notre panel. C'était une Parisienne, elle venait dans notre lycée de Cambrousse, c'était le début de sa carrière. Elle venait en train pour faire cours et tout, donc il y avait un truc un peu... Ça changeait de nos autres profs, quoi. Et elle m'a dit, mais vous, si vous, votre curiosité, la façon dont vous interagissez, votre aisance à l'oral et tout ça, il faudrait que vous fassiez Sciences Po. C'est un truc qui est vraiment fait pour vous. Et personne m'avait jamais parlé de ça. Je savais pas ce que c'était. Je suis allée voir la conseillère d'orientation. Elle m'a dit, oh là là, mais il faut être bonne élève, il faut faire une prépa. Vous y arriverez pas. Et tout. Vous voulez pas faire un BTS plutôt? Donc, c'était compliqué, mais ce truc-là est resté. C'est-à-dire qu'elle a semé cette graine-là et c'est resté toujours. Il y avait des options de sciences politiques au lycée. On n'était pas très nombreux, mais j'ai suivi ce chemin-là. Et ça a maturé en parallèle, à la fois le côté engagement par l'extérieur, les lectures, la curiosité, l'envie de comprendre et tout ça, et la possibilité d'une ouverture scolaire de ce côté-là.
Et quand la conseillère d'orientation, elle t'a dit « mais en gros, tu n'y arriveras jamais », comment tu l'as vécu ?
Mais en fait, c'est un discours qui était très présent, quoi, autour de moi. Déjà, je pense que c'était aussi intégré par mes parents qui n'étaient pas forcément… Le jour où j'ai eu mon diplôme de Sciences Po, mon père m'a dit « je ne pensais pas que tu y arriverais ». C'était hyper violent, en fait. Lui, il n'était pas bien dans son travail à ce moment-là. Il était malade, c'était compliqué et… Et du coup, il était peut-être pas très... c'était pas le bon moment pour lui pour dire les choses. Et du coup, je l'ai hyper mal... Je l'ai vécu de manière hyper violente. C'était le jour de ma remise des diplômes. Et je me disais, mais non, tu peux pas me dire ça. Par ailleurs, ils m'ont toujours soutenue. Donc, il y avait un truc un peu étrange, quoi. Et du coup, plusieurs années après, j'ai osé lui reparler de ça. Et il s'est excusé de la façon dont j'avais pu le recevoir. Mais il me dit, mais j'ai pas compris, on n'a pas compris pourquoi tu t'es mis face à cette difficulté. Parce que c'est quand même un concours qui est ultra sélectif. Hein. C'est un des concours les plus sélectifs en France. C'est 7% de réussite. C'est des études qui sont quand même assez exigeantes. Et j'étais pas scolaire. C'est-à-dire que moi, il fallait que je me force pour arriver à faire ça. Et d'ailleurs, j'ai vraiment commencé à travailler à l'école en prépa. J'ai passé les concours en bac plus zéro. J'ai eu 4, 2 de moyenne, je crois, sur les premiers concours que j'avais passé en bac plus zéro. J'étais pas du tout au niveau, vraiment pas au niveau. Et j'ai pas laissé tomber. Je dis OK, j'y vais. Et j'ai bossé en prépa comme j'avais jamais travaillé de ma vie. En plus, c'était une prépa à la fac. C'était même pas une vraie prépa. Donc, je l'ai vraiment fait toute seule, quoi, pour le coup. Et ils ont pas compris pourquoi est-ce que je m'étais infligé ce truc-là, à quel moment j'avais eu envie d'aller vers cette difficulté et pourquoi. Et quel appétit j'avais de ça, voilà, qui était, enfin, c'était mon chemin, quoi. Donc, il fallait que je me donne la peine de le faire, vraiment. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Et toi, tu sais pourquoi tu le faisais?
Parce que il y avait quelque chose de ça, quoi. Aujourd'hui, je parle de quand les gens me disent ah, c'est difficile d'apprendre des choses nouvelles. Je leur parle des enfants qui font du vélo. Si tu as des enfants jeunes, tu as des enfants jeunes, tu sais ce que c'est. C'est-à-dire cet appétit d'apprendre le truc qui s'explique pas trop. Les difficultés et le fait que ce soit difficile qui rend le truc encore plus désirable. Le fait de voir des gens de l'autre côté de la barrière et de se dire « Waouh, j'ai tellement envie d'y être ». Et le fait que du coup, tomber, s'égratigner les genoux, se faire mal. Alors que par ailleurs, ils peuvent, quand ils se prennent les pieds dans le tapis, tomber et faire une crise d'une demi-heure et pas s'en remettre et te chouiner toute la soirée parce qu'ils sont tombés. Là, ils vont apprendre à faire du vélo. Il n'y a rien qui les arrête, quoi. Et ils se relèvent après la difficulté. Bien sûr, ils regardent toujours derrière s'il y a quelqu'un avec bienveillance qui leur dit « Vas-y, tu vas y arriver, vas-y, tu vas y arriver. » Mais voilà, il y a quand même quelque chose de ça. Et puis à la fin, l'exultation d'avoir réussi. Parce qu'un processus d'apprentissage, un vrai processus d'apprentissage, d'un truc qui est essentiel dans une vie, c'est un processus qui relève de ce truc-là. Et je pense que ce que j'ai vécu à ce moment-là et que j'ai revécu aussi dans l'arrivée dans la vie paysanne, c'est ça. C'est-à-dire le désir d'apprendre, l'appétit d'un truc qui est de sentir qu'on est à sa place. Et que cette place-là, elle se mérite, quoi. En fait, il n'y a pas d'autre chemin que ça, en vrai. C'est-à-dire que oui, il y a sûrement des trucs qui sont plus faciles, oui, il y a sûrement des trucs qui sont... Mais enfin, moi, en tout cas, je dis ça, mais j'y crois pas vraiment. C'est-à-dire que je pense très sincèrement et très intimement que trouver sa place, ça nécessite un processus de construction qui est éprouvant. Mais c'est cet exercice et c'est cette épreuve qui donne de la valeur à ce qu'on a construit après.
Ouais. On dit, alors, je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'ikigai.
Oui.
L'ikigai, donc c'est la raison d'être en japonais. Et en fait, les Japonais disent que si tu trouves ta raison d'être trop petit, trop jeune, qu'elle est une évidence enfant, en fait, tu n'auras pas expérimenté tout ce qu'il faut pour te permettre d'y arriver et d'être vraiment à ta place. Et donc, du coup, comme tu n'auras pas vécu des galères ou vu ce que c'était quand tu n'es pas à ta place, que tu n'arrives pas vraiment à profiter, en fait.
Mais je le crois intimement. Je pense que c'est un processus de construction et je peux dire même que je l'ai vécu comme ça au moment où j'ai fait le choix de partir.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai quitté le champ politique il y a 10 ans comme ça. En plus, à un moment où dans mon espace, l'écologie, ça cartonnait, quoi. C'est-à-dire qu'on avait gagné en 2009. On avait eu un nombre incroyable de députés européens. En 2010, on fait la même au régional. J'ai plein de copains qui se retrouvaient élus. Moi, je travaillais dans une de ces institutions, dans une région, dans le Nord. À l'époque où je fais le choix de partir, ça se passe mal pour moi dans cet espace-là. Je ne m'y sens pas à l'aise. Je ne comprends pas tellement entre la promesse et entre ce qu'on s'était dit qu'on allait faire et ce qu'on fait en vrai. Comment est-ce qu'on vit ce grand écart? Et c'est le moment où Cécile Duflot rentre au ministère du logement. Et donc, où tous les copains avec qui j'ai construit ça montent dans les câbles et tout ça. Et donc, il y a une forme d'acmé de quelque chose qui pourrait être, je ne sais pas, la continuité normale d'un parcours et puis la réussite dans le chemin professionnel. Et à ce moment-là, moi, je fais le choix de me mettre en retrait avec une incompréhension qui est très forte de la part des copines et des copains qui disent « Mais viens vivre l'aventure avec nous. En fait, on l'a co-construit déjà depuis 5 ans ensemble. C'est pas normal que tu n'aies pas envie de le vivre. » Et donc, le fait de me mettre en retrait à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment un choix. Parce que je savais que ce vers quoi on allait n'était pas bon, que, en tout cas, pour moi, je n'étais pas outillée pour le faire, et que j'avais besoin de vivre autre chose et de construire autre chose avant de pouvoir le vivre pleinement.
Quand tu dis que tu n'étais pas outillée pour le faire, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que il y avait quelque chose à interroger très fort dans ma relation au pouvoir. Et dans la relation à la violence dans l'espace politique, que je vivais hyper mal. Et que je savais que si je faisais ce chemin-là, j'y laisserais trop de plumes et que je risquais d'être dégoûtée d'un truc qui est structurant pour ma vie. Ouais. Donc, voilà, j'ai considéré qu'il fallait que je me mette en retrait et que je vive ça d'une autre manière. Parce que par ailleurs, ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai fait comme autre choix était ultra politique, ouais. Mais différemment, pas institutionnel.
Parce que du coup, donc, à la sortie, donc, tu as été diplômée de Sciences Po. Qu'est-ce que tu as fait du coup suite à ça ?
À la sortie de Sciences Po, j'ai créé une boîte avec un de mes profs et ça ne s'est pas hyper bien passé.
C'était une boîte de quoi ?
On faisait de la formation en management et leadership alternatif.
D'accord.
Et lui est parti, il s'est séparé de sa compagne, il est parti. Donc du coup, le projet n'a pas vraiment abouti, quoi. Mais déjà, j'avais ce truc entrepreneurial qui était en moi. J'avais la volonté de créer un café-librairie. Après, j'ai bossé, on a créé un journal avec des copains. Enfin, voilà, il y a vraiment eu pas mal d'étapes et de strates, avec à la fois toujours une appétence entrepreneuriale et un axe engagement qui était très fort. Assez rapidement, je ne sais pas, je crois que c'était en 2009, donc c'était 1 an et demi ou 2 ans après mon diplôme, je me suis engagée dans l'humanitaire. J'ai passé 1 an dans la jungle à Calais. Et puis, à l'évacuation de la jungle fin 2009, j'ai pris la direction d'un centre d'hébergement d'urgence pour l'association Emmaüs à Paris. Donc voilà, des expériences qui étaient assez extrêmes,
ouais.
Surtout Paris, parce qu'en fait ça s'est toujours bien passé à Calais, j'y ai appris plein de choses, c'était assez merveilleux en fait, c'est terrible de dire ça comme ça, mais
ouais.
c'était un réveil très fort dans mon rapport à l'État, parce que évidemment quand on fait Sciences Po, on croit beaucoup aux institutions, et quand on voit des policiers de 40 ans tabasser des enfants de 12 ans, ça change, et qu'on le voit de ses yeux et pas qu'à travers une télé, ça change le rapport à l'État. Ça change le rapport à ce qu'est le fait politique. Je dois dire que je me suis un peu radicalisée dans la jungle à Calais. et en même temps, on est dans la base même de ce qu'est l'altérité et l'humanité, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée à Calais pleine d'idéaux parce que j'étais pour la liberté de circulation, parce que, évidemment, à l'époque, il faut se dire que... C'est compliqué faut le remettre absolument en contexte. C'est-à-dire qu'à l'époque, Sarkozy est président de la République, Hortefeux est ministre de l'Intérieur et Éric Besson est ministre de l'Identité nationale. Donc, on est dans un contexte où défendre les droits des exilés, c'est aussi défendre les valeurs de la gauche. Il y avait quelque chose de très fort de ce côté-là. Et moi, je suis arrivée vraiment pleine d'idéaux et dans un axe très politisé. Et je suis arrivée à Calais avec des gens qui étaient là, qui étaient plutôt des gens, qui étaient des locaux essentiellement, hein, dans l'association Salam. Et quand on leur demandait pourquoi ils sont là, ils disent parce que en fait, c'est comme ça. Et c'est très difficile de. Ok. Et pourquoi tu le fais ? Parce que si demain c'était la guerre et que moi je devais partir, je voudrais qu'il y ait des gens qui le fassent pour moi. Et toi, tu arrives avec un cartable rempli d'idéaux qui pèse lourd dans ton dos. Et qui sert à rien. Et eux, ils te donnent une immense leçon d'altérité. Parce qu'en fait, il n'y a pas de grandes idées, il n'y a pas de grandes valeurs qui portent ça. Enfin, en tout cas, pas de valeur de construction intellectuelle.
Ouais, c'est le cœur, quoi.
Y a juste la base de je suis un homme ou une femme, en face de moi, il y a un homme ou une femme qui a besoin d'aide, je vais lui apporter mon aide. Et j'ai appris énormément à cette époque-là. C'était vraiment, ça a vraiment été une période assez clé dans mon parcours de vie. Après, ça a été une période difficile. Enfin, Calais, j'en suis plutôt sortie renforcée. Paris, c'était beaucoup plus dur parce que moi, j'avais un rapport à Calais. Je me sentais très en sécurité, en fait. La jungle, il y avait 1800 personnes dedans. J'étais une femme jeune, seule. Je m'occupais beaucoup de l'accès aux droits, évidemment. Ouais. Donc, on allait à la préfecture, on gérait ça. Et puis, je m'occupais de l'accès aux soins. Donc, on allait à l'hôpital et j'accompagnais. Donc, souvent, j'étais en interaction avec une ou deux personnes seules. En fait, les seuls moments de tension et d'inquiétude que j'avais, c'était soit avec les militants d'extrême droite qui étaient quand même assez présents et assez véhéments contre nous, soit avec la police. Ouais. Mais avec le public, jamais. Mm-hmm. Pourtant, on peut se dire, bon, la jungle de Calais, c'est quand même pas le paradis sur Terre. Mais même avec les passeurs et tout ça, il y avait une sorte de pacte de non-agression et on... Voilà, je me suis jamais sentie en insécurité, jamais, jamais. Et quand je suis arrivée à Paris, en ouvrant le centre d'hébergement d'urgence, on a mis en difficulté la mafia qui gérait la jungle parisienne.
Ok.
Ce qui raquettait les gars pour être sur le quai à Jaurès. Et nous, on leur ouvrait une espèce d'hébergement gratos. Donc, évidemment, ça marche pas. Et donc, j'ai été menacée de mort par la mafia kurde.
Ah ouais.
Ça a été très, très violent, vraiment très violent. J'étais sous protection policière. Jour et nuit. Bon, attention, hein, c'était pas la protection policière, c'était quand même, voilà, c'était quand même un peu, c'était pas comme le service de protection des personnalités. Donc, voilà, il y avait quatre flics du 20e qui vidaient les parcs des toxicos à 6h du mat pour que les enfants puissent aller jouer après, puis après venaient me chercher à la gare et m'accompagner toute la journée. Ah. Donc c'était quand même bon, voilà.
T'avais pas ton garde du corps qui te suivait en permanence.
C'est ça. Mais, ouais. Mais sauf que quand même, ça met un truc compliqué dans la vie, quoi. C'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation.
Tu avais pu l'imaginer, d'ailleurs, en prenant ce...
Non, je ne l'avais pas imaginé. Je ne l'avais pas imaginé parce que je n'avais jamais imaginé que si menace il y avait, elle viendrait de mon public.
Ouais.
Quand on est accueillant, enfin, voilà. Ouais. Et heureusement, je travaille dans une structure merveilleuse. Enfin, franchement, l'association Emmaüs, c'était à gérer la situation de façon... extraordinaire, enfin surtout les personnes qui m'accompagnaient. J'ai appris beaucoup parce qu'en fait, je suis arrivée dans l'humanitaire sans avoir été formée. Et oui, quand on est dans la jungle, on est dans l'urgence, on fait des repas, voilà. Mais que quand on est en gestion de centre, on est dans une autre forme d'accueil. Et donc, ça demande des process, ça demande... Et voilà, et en fait, ça m'a beaucoup construit, mais je dois dire que je suis sortie de ces 8 mois, puisqu'à la fin de la trêve hivernale, il a fallu fermer le centre. Emmaüs m'a proposé de continuer.
Ouais.
Et puis, j'avais la possibilité de retourner à Calais, où j'avais aussi la possibilité de partir en humanitaire dans un autre espace, ce qui m'était proposé, et notamment l'Afghanistan, parce que j'avais appris le Pashtoun, que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dirigé ce centre. Et puis en fait,
c'est quoi? C'est la langue.
La langue de l'ethnie majoritaire, majoritaire. L'ethnie qu'on avait le plus, en tout cas, parce que c'est en gros l'ethnie qui couvre le sud-est de l'Afghanistan,
okay.
Jusqu'au Cachemire, et c'est une ethnie qui est très présente. C'est aussi celle qui porte en son sein les talibans. Donc à l'époque, okay. C'était la plus concernée par l'exil parce que soit fallait choisir son camp, quoi. Après, il y avait aussi quelques Tadjiks, des gens qui parlaient farsi ou dari. Mm-hmm. Mais moi, le public, 80% du public avec lequel j'interagissais parlait pashtoun à l'époque.
Quand est-ce que tu t'es dit que tu allais apprendre cette langue?
Je me suis pas dit que j'allais l'apprendre. En fait, il se trouve que comme je faisais l'accès au droit, je passais ma journée entière. Il y avait un truc volontaire de non-accès aux services dans les préfectures.
Ouais.
Donc, nous, on arrivait, on prenait un ticket, on savait qu'on allait passer la journée là avec les gars pour pouvoir déposer leur dossier pour les demandes d'asile.
Donc, ça, c'était quand tu étais dans la jungle ?
Voilà, quand j'étais à Calais. Donc, en fait, il y avait une sorte de... C'était un jeu, quoi. On savait qu'on y allait... fallait être les premiers arrivés le matin et qu'on serait les derniers sortis. Et donc, je passais des journées entières dans la préfecture à rien faire. Et donc, en fait, j'avais des profs particuliers géniaux. Donc, les gars essayaient toujours de m'expliquer des trucs. Alors, au début, comme dans n'importe quelle rencontre, et puis surtout, on n'avait pas de traducteur tout le temps. On en avait parfois, mais on en avait quand même très rarement parce qu'on avait très peu de moyens. Ce qui n'était pas le cas à Emmaüs, par exemple, où j'avais quand même une équipe de traducteurs qui m'accompagnait. Mais donc, il fallait se démerder, en fait. Et quand on apprend à se débrouiller, bah, d'abord, on apprend pour les choses essentielles. T'as faim, tu vas aller aux toilettes, ouais. Voilà. Et puis, en fait, et puis après, on apprend d'autres choses. Et puis, un jour, j'ai acheté un petit guide chez l'Armatan qui s'appelle Parlons Pachtoun, dans lequel il y a plein de drôles, trucs hyper drôles, ce qui t'apprennent à négocier des chèvres et tout ça. et dans lequel il y a un peu de civilisation. Et donc, ils ont commencé à m'expliquer l'histoire de leur nom de famille, de leur province. Certains parlaient un petit peu anglais. Donc, on a commencé. Et en fait, il y a quelques-uns de ces exilés avec qui j'avais souvent à aller à la préfecture qui se sont pris au jeu de vouloir m'apprendre leur langue. Donc, en fait, pendant des semaines, j'ai eu des profs particuliers qui me faisaient répéter toute la journée, qui m'exerçaient, qui me faisaient des blagues. Parce qu'il y a c'est une langue très poétique où il y a beaucoup d'idiomes, où il y a beaucoup de... Il y a de la poésie, quoi. Il y a beaucoup d'images. Et donc, il y avait beaucoup de jeux de jeux avec ça, et ça, à m'apprendre un peu leurs jeux de mots et tout, leur musique, leur chant. Et donc, voilà, en fait, j'ai eu une formation un peu malgré moi, mais qui a été intégrée de cette manière-là.
C'est fou, hein.
Et je ne le pratique plus maintenant, et je ne sais pas l'écrire, donc je pense que je perdrais.
Mais, ouais.
Mais voilà, j'ai appris le créole mauricien, j'ai appris le pachtoun, je ne sais pas si ça sert sur un CV, mais...
Bah, ça sert comme quoi. Et donc, du coup, suite à l'expérience chez Emmaüs, donc tu leur as dit non ?
Ouais, j'ai dit non à Emmaüs. J'étais vraiment éprouvée physiquement. J'avais perdu 6 kilos. J'étais... Et puis, en fait, j'avais pas envie de vivre avec cette tension de menace sur ma vie. C'est quand même quelque chose de particulier. Enfin, j'ai senti à la fin de mon contrat que je me sentais libérée. Et j'étais avec un ami dans Paris. Et je croise des gens qui étaient parmi les gens qui me menaçaient à l'époque. Et j'ai eu vraiment la douche froide. Le truc de la peur animale qui m'a paralysée, quoi.
Ouais.
Et parce que nos regards se sont croisés, parce qu'il y a eu un geste pour montrer qu'ils savaient qui j'étais, et moi, je savais évidemment qui ils étaient. Et je me suis dit, en fait, je peux pas vivre avec ça. Je peux pas vivre avec ça. Je dois m'en protéger et je dois absolument m'éloigner de ça et créer de la distance. Je peux pas replonger, même pour un autre centre, même ailleurs. Enfin, j'y arriverai pas, quoi.
Ouais.
Je suis pas capable de gérer cette terreur-là, parce que c'est ça, en fait, hein, c'est ça qu'il s'agit, quoi. Donc, à l'époque, j'ai vécu comme un confort. Bah, on venait de gagner les élections. C'était 2010, on venait de gagner les élections régionales.
Ouais.
J'avais une porte de sortie parce qu'il y avait besoin de ressources humaines pour les écologistes. Et donc, je suis rentrée dans le Nord aussi parce qu'Emmaüs avait un peu éprouvé mon couple avec la personne avec qui j'étais à l'époque.
Ouais.
Je me suis dit, je vais aller me cacher là-bas, ça va être bien. Je vais faire ce que je sais faire parce que je sais le faire. Il n'y a pas de problème de la communication politique, je sais le faire. Et je vais aller trouver un bon poste de cadre, m'asseoir dans un bureau et je suis sage maintenant. J'ai compris, j'ai essayé des trucs, j'avais le droit, j'ai vécu une drôle d'aventure. Maintenant, je rentre dans le rang. Je dois avouer que ça n'a pas duré très longtemps.
Ouais. Et avant qu'on rentre, on parle du rang, entre guillemets, ton entourage, comment ils l'ont vécu quand tu étais chez Emmaüs, notamment tes parents
En fait, c'est une période très particulière parce qu'il y a énormément de rétributions symboliques à travailler dans une structure comme ça. Tu signes quand même un contrat où il y a la photo de l'abbé Pierre dessus.
Ouais.
Donc, il y a un truc, porter la veste d'Emmaüs, autant porter la veste de Salam, je le vivais comme une protection juridique. Quand on est à Calais, c'est une manière de dire, en fait, oui, on aide les migrants. Oui, on est soumis, à l'époque, on était soumis au délit de solidarité. Hein, donc, on sait très bien qu'on peut avoir des poursuites judiciaires. Mais on sait aussi que, ben, du coup... En appartenant à une communauté associative, on appartient à un réseau de soutien et donc on assume, on sait qu'en faisant ça, on fait de la désobéissance civile, on est là pour ça. Donc on fait primer l'intérêt du collectif et de l'altérité sur notre difficulté personnelle, individuelle, à faire face à la justice dans ce cas-là, quoi.
Okay.
Alors que quand on porte la veste d'Emmaüs, on a vraiment l'impression, je ne sais pas comment dire, mais il y a une espèce d'aura, quoi.
Ouais.
Il y a un truc de mission, en tout cas, c'est clair. Il y a une part spirituelle qui est très forte. Moi, je ne suis pas croyante, mais je le voyais au sein de mes collègues dans la mission d'aider l'autre, que c'est une part de réalisation de soi, mais de réalisation de quelque chose d'au-delà pour le commun, pour la société, pour l'humanité. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort. Et quand tu te dis, je travaille chez Emmaüs et je travaille dans le centre d'hébergement d'urgence, les gens te prennent clairement pour Mère Teresa. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui t'est renvoyé, qui n'est par ailleurs pas vécu dans le quotidien. Parce que le quotidien, c'est quand même globalement le gros why, c'est-à-dire que surtout qu'avec des publics comme les miens, il y a beaucoup de tentatives de suicide, beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de difficultés psychiatriques quoi, ouais, à gérer, beaucoup de trucs d'intendance, bah il faut gérer la nourriture, le droit, les traducteurs, les trucs, les machins. Donc en fait le quotidien est pas ni héroïque ni tranquillou. Enfin, ouais. Voilà. Donc c'est un petit peu à cheval entre les deux parfois. Mais c'est violent, mais c'est moins violent qu'un hôpital, je pense, par exemple.
Ouais.
Et c'est quand même très processé, c'est très encadré. Enfin voilà, c'est pas la jungle, quoi. Et donc du coup, c'est un peu difficile de se situer par rapport à ça. Ce que les gens projettent. Il y a souvent des petits encadrés sur Instagram là, avec ce que les gens pensent que je fais, ouais, ce que ma mère pense que je fais, ce que je fais vraiment, etc. Mais voilà, pour moi, Emmaüs, c'était ça. C'est-à-dire, les gens projettent sur vous énormément de choses différentes. Et pas toujours en lien avec ce qui nous anime, nous, et quelle est la réalité de notre quotidien. Donc voilà, par ailleurs, mes parents, ils vivaient ça comme elle est jeune, elle a besoin de le vivre, de s'y frotter. Je pense que si j'avais fait le choix du départ humanitaire, ça aurait été beaucoup plus difficile pour eux.
Ouais.
Là, ils le vivaient.
Ils étaient t'en avais parlé à ton entourage du fait que t'étais menacée, enfin que ta vie était menacée.
Et je l'avais un peu caché.
Ouais.
Pas à mes parents, mais quand même, je l'avais un peu relativisé. En tout cas, j'avais pas forcément partagé le niveau d'angoisse que ça représentait pour moi. Et après, j'ai eu la chance quand même d'être soutenue à l'époque par les copains qui m'avaient accompagnée dans la prise de ce poste.
Ouais.
Donc Augustin Legrand, qui est le gars qui a créé les Enfants du Canal, c'était il y a assez longtemps, mais c'était un réseau de solidarité avec des tentes le long du canal pour les personnes sans abri.
Okay.
Et Julien Bayou du réseau Jeudi Noir, qui est maintenant le secrétaire national des Verts, mais qui tous deux avaient accompagné ma prise de poste chez Emmaüs parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour faire ce truc et que personne ne pouvait le faire, et donc c'est eux qui m'ont fait venir à Paris pour ça et qui ont été là présents auprès de moi vraiment pendant toute la période et qui m'ont accompagné aussi dans ces difficultés-là. Donc j'étais pas seule, j'avais pas forcément la nécessité d'inquiéter des gens qui étaient plus loin.
Ouais.
Et voilà, du coup mais non c'était, et puis c'était même pour moi à l'époque difficile de mettre des mots là-dessus, hein.
Oui, bah oui, quand on vit le truc parfois on se rend pas compte.
Ouais, enfin, je pense que je me rendais compte, mais j'étais pas encore capable de le formuler. C'est après, ouais, il a fallu que je le digère et que je l'accueille vraiment, quoi.
Et à partir du moment où t'as quitté ce poste et que t'es remonté dans le Nord, t'avais vraiment, putain, il y avait plus de menaces. Ils sont passés à quelqu'un d'autre ou il y avait encore des...
Ah oui, non. À partir du moment, mais même à partir du moment où le centre a fermé, quoi. C'est-à-dire que c'est le principe d'une mafia, c'est que ça reste un espace d'intérêt économique. Il n'y a pas de nuisance personnelle, c'est-à-dire qu'on est la personne qui leur fait perdre du pognon. Si on n'est plus là, il n'y a plus de sujet.
Okay.
Mais donc non, là-dessus, c'est la question de cette peur, elle n'était pas forcément fondée, elle était juste là en moi. Mmh. Et voilà, je pense qu'après, je suis allée chercher aussi quelque chose de ce côté-là. Je pense que j'avais ce sentiment que, parce que la science politique, en théorie, c'est pas très heureux quand même, hein. Je veux dire, quand on étudie l'histoire... on se demande comment est-ce que l'humanité a pu aller jusque-là. Et quand on a envie de prendre des responsabilités dans un espace comme celui-là, on doit se poser la question de ce que ça signifie. Et donc, du coup, voilà, je pense que c'est ça que je suis allée chercher. Et ces récits de vie que j'ai fait pendant des jours et des jours avec des personnes exilées sur ce qu'est la guerre, ce qu'est leur vie dans ce schéma-là et tout ça, ça interroge très fort ce que ça signifie... On a beau être non-violent, on a beau être pacifiste, on est confronté à la violence du monde, en fait. Ah. Et la réalité, c'est que quand on intellectualise, quand on le met à distance, il y a une forme de confort, mais il manque quelque chose, parce qu'on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'écarter. Donc voilà, il y avait quelque chose de ça, et peut-être que le vivre dans ma chair, c'était une étape nécessaire pour l'appréhender. Je pense que c'est des choses dont je peux discuter par exemple avec des gens qui ont eu des périodes de vie dans l'armée ou dans l'humanitaire et qui ont expérimenté ça au plus près, ou des journalistes reporters de guerre, ou de la façon dont on peut considérer le monde et de la sensation que au moment où on accepte d'aller voir ça, il y a une forme de miroir ou il y a une forme de voile sur le monde qui se lève et qui rend autrement conscient, mais qui nécessite pas forcément... qui peut poser des questions avec des gens qui deviennent un peu accros à ça, qui ne savent pas raccrocher et qui du coup entretiennent un truc un peu étrange à cet espace-là.
Ouais.
Mais voilà, chacun fait son chemin dans la vie, en l'occurrence, c'est pas moi de juger. mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y avait quelque chose de ça, de la nécessité d'aller s'y confronter et d'aller le vivre en soi pour pouvoir l'appréhender complètement.
Ouais. Donc du coup, arrive le moment où tu as une vie derrière un bureau.
Ouais. Ouais. Ah oui, puis c'était pas pour de rire, hein. Je travaillais au 7e étage, une belle tour en verre et tout. C'était assez, j'avais un super grand bureau.
C'était quoi ta fonction
J'étais responsable de, enfin, chargée de communication pour le groupe écolo à la région. On était du coup dans la Majo. Donc, des liens avec le CAB, des préparations d'événements, la naissance des réseaux sociaux, de la communication sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, c'était... je savais faire, quoi.
Ouais. C'était en quelle année, ça ?
C'était en 2010.
D'accord. 2010. Et du coup,
2010-2011.
Quand tu rentres dans le Nord, comment, enfin, tes amis sont contents de te voir venir ou ils disent, mais finalement, qu'est-ce que tu fais derrière un bureau ? Comment...
Ah non, ça paraissait à tout le monde assez normal que je fasse ça. Tout le monde a vécu comme un truc très étrange, le choix de Paris ou de Calais. Donc, c'était normal. Et puis, c'est aussi une période où les gens se posent dans des boulots. Ça paraissait plutôt normal que je rejoigne la majorité des gens, en fait.
Ouais.
Donc, voilà, non, c'était pas du tout vécu comme un truc étrange. Puis après, c'était quand même mon univers. Ça restait politique. Enfin, voilà, donc il n'y avait pas de...
Ouais, c'était cohérent pour... c'était cohérent.
Ouais, c'était cohérent. Mmh. Ouais. C'était cohérent.
Et qu'est-ce qui a fait, du coup, que en fait, finalement, tu as quitté tout ça ?
Déjà, je me sentais très mal. Enfin, ça a duré... au bout de quelques mois, ça a commencé à être compliqué. Il y avait beaucoup de tensions au sein du groupe. Et quand on est à l'interface, c'est compliqué. Parce qu'en fait, moi, j'ai... C'est des trucs tout bêtes, mais on écrit un communiqué de presse et puis du coup, il y a des tensions entre les gens qui veulent pas que les arbitrages se passent à cet endroit-là. Puis on devient l'éponge ou le souffre-douleur de tensions qui peuvent pas se régler directement entre les gens. Il y avait des gros problèmes. Enfin, j'avais des problèmes avec mon responsable. J'étais vraiment dans un schéma assez classique de mauvais management et de souffrance au travail de base, quoi.
Ouais.
Et je pense que j'étais en plus assez éprouvée de ce qui s'était passé avant et que j'avais plutôt la nécessité de trouver des conditions où je pouvais travailler sereinement.
Ouais.
Et en fait, c'était pas le cas, quoi. Et par ailleurs, j'avais un sentiment d'incohérence totale entre les belles idées que je défendais, qu'on était censé défendre, et la manière dont on vivait au quotidien, avec mon quotidien aussi en pratique, avec la quantité de déplacements, les contraintes de vie liées au rythme de travail qui fait que ben on bouffe de la merde, on est tout le temps dehors, on n'a pas le temps de faire les choses bien.
Dehors, pas dans un jardin, quoi. Dehors, dans la rue.
Non, non, ouais. Dehors, au restaurant, mais vite, mal. Ben voilà, comme plein de cadres, en fait, hein, c'est normal. Et puis en plus, la com, c'est un espace, surtout en politique, où il faut être tout le temps réactif.
Ouais.
Faut prendre des communiqués de presse à 4h du mat pour la matinale, faut machin, faut truc. Donc, c'était pas vraiment mon... Et puis, en fait, je me suis vite sentie pas à l'aise et pas à ma place du tout, quoi.
T'avais des mots physiques ?
Ouais, j'en avais plein. J'avais un début d'ulcère à l'estomac. Et surtout, j'ai commencé à devenir claustro.
Ouais.
Ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le sait, enfin des gens qui bossaient avec moi à l'époque, mais en fait, je ne pouvais plus prendre l'ascenseur. Donc du coup, parce que je faisais des crises d'angoisse dans l'ascenseur, quoi. Et donc du coup, je montais les 7 étages à pied, et je les redescendais aussi. Hein. et quand les gens disaient, je fumais pas, enfin je fumais, mais je fumais pas la journée, parce que faire une pause club, ça veut dire... monter et descendre cet étage.
Ouais.
Et en fait, il fallait que j'invente des subterfuges pour dire genre, je prends mon dossier, je vous rejoins tout de suite, je prends l'ascenseur d'après. Je ne le prenais pas, je descendais les escaliers. Et il y avait plein de trucs comme ça. Enfin voilà, c'était devenu n'importe quoi. J'avais des trous du sommeil. J'avais un truc assez classique en fait. Et j'allais voir mon médecin qui était un médecin génial, qui était la porte juste en face de chez moi, qui était mon médecin depuis quand même longtemps, donc qui me connaissait bien. Et à l'époque, j'ai commencé à demander des anxiolytiques, puis des antidépresseurs, puis des somnifères. Et un jour, il m'a dit non. Il m'a dit je vais vous faire une ordonnance maintenant. Et il m'a écrit changer de travail. Et il m'a dit, je sais que si c'est pas moi qui vous le dis, ben peut-être personne ne vous le dira. Mais en fait, je vais arrêter de vous donner des pilules et vous allez faire quelque chose qui va être important pour vous. Parce que là, je ne vois pas de perspective. Et à chaque fois que vous me parlez de quelque chose, vous me parlez de votre rythme de travail, de votre sommeil à cause de votre travail, de votre alimentation à cause de votre travail. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment un problème. Et qu'à l'âge, c'est sûr qu'à 25 ans, se dire qu'on est autant en difficulté par rapport à ça, alors qu'on a un diplôme. Et je pense qu'il me l'a dit parce qu'il savait que j'étais jeune, qualifiée, que j'en trouverais sans problème. Si j'avais été précaire et dans la merde, on n'aurait peut-être pas été dans la même situation. Mais lui, il me l'a dit clairement. Il m'a dit, non, on ne passe pas aux antidépresseurs, vous changez de boulot et puis après, on verra.
Ouais, parce qu'en fait, l'antidépresseur, c'est un pansement. Ce qu'il faut, c'est traiter la racine du truc, quoi.
C'est ça. C'était la base de la médecine holistique. Ce n'était pas un naturopathe hein, dans son genre, mais là, il a fallu quand même qu'il mette le doigt là-dessus. Et voilà, je pense qu'assez clairement, ça c'est Oui, j'avais des crises de sciatique aussi. J'avais le dos qui se bloquait. Du coup, avec des prises d'antidouleurs, de décontractants musculaires très, très importantes et tout ça. J'allais travailler. Il me faisait la piqûre le matin. J'allais bosser après.
En plus, pour ceux qui ont une sciatique, tu sais que chaque pas est une souffrance. Donc, en plus, il fallait que tu te tapes les 7 étages.
C'est ça.
Ouais.
Donc voilà, du coup, c'était pas normal.
Ouais.
Et la sortie de cette situation de crise qui a été vraiment ultra violente m'a confortée là-dedans. C'est-à-dire que j'ai vu des élus qui étaient censés être des managers se comporter avec moi comme avec des adversaires politiques, utiliser les mêmes méthodes. Et en fait, je me suis dit, il y a quelque chose de dysfonctionnel, je le sentais, je le savais, et je suis partie, comme ça, quoi. Et alors, du coup, c'est hyper facile de ne pas regretter. il y a quelque chose de ça, hein, de cathartique, quoi. Et donc, du coup, je pense que le fait que ça a été super violent aussi m'a permis de tout plaquer sans même me poser la question de ce que ça pouvait représenter comme perte, quoi.
Et du coup, quand tu sors de chez le médecin, comment tu vis ce qu'il te dit ?
Plutôt bien. Et je me suis sentie assez seule, en fait, à cette époque-là. Donc, je l'ai maturée quand même assez longtemps. Et après, je me suis rendue à l'évidence, quoi.
Ouais. T'as mis combien... Du coup, entre le moment où t'as pris ton poste, le moment où t'as vu le médecin et le moment où l'évidence est arrivée dans ta tête, il s'est écoulé combien de temps ?
Un peu plus d'un an, je crois.
Ouais.
Donc, ça a été rapide, en fait.
Mais en même temps, c'est rapide. Mais en même temps, quand on vit des galères, on n'a pas du tout l'impression que c'est rapide. On a l'impression que ça le temps s'étend, en fait.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais par rapport aux 10 ans qui se sont écoulés ici, ça, enfin voilà, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu être dans un tel état en un an ? Enfin, y a quelque chose d'un peu compte tenu aussi de ce qui est en jeu, c'est-à-dire que. Ok, quand tu te retrouves dans une situation de violence directe, il y a quelque chose de voilà, d'éprouvant et tout ça. Mais là, mais après c'est aussi ça. Hein, je pense que c'est aussi ça quand j'ai tout à l'heure interrogé le rapport au pouvoir, à la violence, etc. C'est que je pense que c'est ténu, c'est fait proprement, ça dépasse pas des bords, mais c'est pas moins violent.
Ouais, c'est sûr.
C'est pas moins violent.
Et donc, du coup, quand tu fais ton petit bonhomme de chemin, tu te dis, bon, OK, c'est une évidence, il faut que je quitte ce boulot. Est-ce que tu as une idée de ce que tu as envie de faire derrière ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette période-là, j'étais aussi en difficulté dans mon couple. Et du coup, j'avais besoin d'air. Et je suis allée... du coup, je suis revenue au cadre militant, en fait. Je crois que j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'engagement, j'avais besoin de sens, j'avais besoin de rencontrer des gens ou au moins de faire des trucs avec des gens que j'aimais bien, quoi. Mmh. Et j'avais toujours gardé un lien assez fort avec des copines et des copains des réseaux de la désobéissance civile, puisque moi, je me suis formée politiquement dans ces espaces-là quand je suis arrivée à Lille. On avait, c'était la grande époque du Forum social mondial de Porto Alegre, et du coup, il y avait les forums sociaux européens, puis les forums sociaux locaux. Et donc, voilà, avant de rentrer chez les Verts, j'avais fait mon expérience à Attac et dans ces espaces-là. Et je recroisais régulièrement les copains de ces espaces-là dans des formations à la désobéissance, dans des ateliers, dans des conférences. Et ils sont venus me rechercher en me disant « il y a le camp climat, il faut que tu viennes, ça va être bien, allez, viens, viens prendre l'air, reviens aux bases, ça va te faire du bien ». Et en fait, effectivement, c'est dans cet espace-là que j'ai trouvé ma porte de sortie. Parce que je me suis sentie tout de suite à ma place, parce que j'avais besoin de faire, j'avais besoin de mettre les mains dans la transition, quoi. Et je sentais bien que la région, c'est une institution très technocratique. Et que pour être solide face à des bons technos, il faut quand même être un peu dans le dur, quoi. Raconter des trucs, bien écrire et tout ça, ça suffit pas. Et du coup, voilà, j'ai trouvé dans le camp climat ce truc-là. Des trucs très pragmatiques, hein. Construire une éolienne, souder, faire de l'élec, revenir à des trucs qui étaient des trucs pour lesquels j'avais de l'appétit aussi.
Ouais.
Et des gens qui étaient dans des modes de vie et des modes d'interaction avec les autres qui correspondaient bien plus à ce que j'attendais de la vie que ce que je vivais dans le champ politique. Et donc voilà. Et donc en fait, ma porte de sortie, elle est arrivée là. Moi, j'ai rencontré Adrien dans le cadre du camp climat. On avait des modes de vie totalement antithétiques. Enfin, lui, il vivait en squat. Au début, j'étais un peu... Enfin, voilà. C'était vraiment le choc culturel entre nous. D'ailleurs, la première chose qu'il m'a dit, que du coup, on s'est rencontrés parce qu'il faisait partie du comité d'organisation du camp climat. Et donc, j'étais venue... qui avait lieu au Havre, sur la zone industrielle, au-dessus de la zone industrielle où bossait mon père. Ouais. Donc, je me suis dit, allez, OK, carrément, les copains, on y va, c'est chez moi, il n'y a pas de problème. Et du coup, j'étais allée à la réunion de préparation en leur disant, bah, voilà, est-ce que je peux aider? Effectivement, j'ai des ressources locales. Si on peut filer la main, c'est OK. Et en fait, c'est lui qui m'a accueillie. Et donc, bon, bah, voilà, bonjour, tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis collaboratrice d'élus. C'est toi qui m'a répondu, ah, c'est à peu près tout ce que je déteste. D'un premier abord, enfin voilà, il a fallu un moment avant qu'on construise le lien et qu'on se rende compte qu'en fait on était fait l'un pour l'autre. Mais voilà, il y a quelque chose de ça qui s'est fait. Lui, il cherchait une formation pour devenir paysan. Il a eu la possibilité de rentrer dans le Nord à ce moment-là. Et voilà. Et moi, j'étais en train de me séparer de mon conjoint. Et puis voilà, à un moment, on s'est rapprochés. On s'est dit, mais enfin, il y a beaucoup de barrières à faire tomber. Il y a peut-être quelque chose à construire, quoi. Et ce qui est assez fou, c'est que ça faisait 6 mois qu'on était ensemble quand on a pris cette ferme, quoi.
Ah, c'est fou, hein.
Ça faisait ça faisait un peu moins d'un an qu'on se connaissait et ça faisait 6 mois qu'on était en couple, quoi.
Et quand tu disais que vous aviez beaucoup de barrières à faire tomber, c'était quoi ces barrières?
Culturelles, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire le truc des mouvements libertaires, c'est très... c'est beaucoup de défiance au pouvoir, déjà. c'est beaucoup de défiance dans l'État. C'est beaucoup de rapports aux faits collectifs où on lisse l'individu au profit du groupe. Et du coup, enfin voilà, c'était dans une approche du faire commun. C'est totalement différent de ce que moi, j'avais vécu. J'en voyais les limites parce que je pense qu'Adrien aussi cherchait sa place. Parce que dans ces collectifs qui nient totalement l'individualité, ben c'est difficile de se construire sur le long terme. Ça peut être un moment de recherche hyper intéressant quand on est jeune et qu'on a envie de se confronter à la réalité entre la théorie et la pratique. Mais c'est difficile, en fait, de faire son chemin par rapport à ça, avec des injonctions très fortes sur des choses très intimes, sur la sexualité, l'alimentation, l'expression du genre, donc des choses qui sont difficiles à déconstruire aussi. Et donc du coup qui sont un exercice éprouvant, et je pense que notre rencontre a été justement le croisement entre ces questionnements-là individuels et puis ce qu'on avait envie de faire collectivement et puis ce qu'on attendait de nos grands idéaux dans notre vie pratique et comment est-ce qu'on pouvait construire quelque chose qui nous correspondait, qui apportait au commun et en même temps dans lequel on pouvait s'épanouir. on pouvait simplement être heureux, en fait.
Ouais.
Et c'était pas rien. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour le coup, quand on a dit on va prendre une ferme ensemble, et de son côté et de mon côté, personne n'y croyait.
Ouais.
Les gens se sont dit, mais vous êtes tellement pas compatibles. Et vous êtes tellement différents.
En fait, ils n'y croyaient pas à la ferme ou ils n'y croyaient pas à votre couple ou les deux ?
Les deux.
Ouais.
Et je pense qu'il y avait pour Adrien une projection sur pas possible de se stabiliser, qu'il serait toujours rappelé au truc de la lutte, qu'il serait se construire individuellement, ce n'était pas possible, il fallait toujours qu'il y ait la bande derrière et tout ça. Et pour moi, il y avait un doute sur la condition paysanne, sur le renoncement à une forme de réussite, sur le renoncement à un confort matériel. La compatibilité avec cette mise en défiance perpétuelle qu'impliquent des modes de vie plus libertaires justement sur des choses très intimes et du coup que ça allait pas, c'était trop dur quoi, ça allait être trop dur.
Mais bon, quand c'est trop dur, ça te fait pas peur, au contraire.
Non, et puis voilà, 10 ans après, on est ensemble, on a un enfant, on est heureux, on s'aime, on a traversé pas mal de difficultés, donc on a prouvé que c'était non seulement possible, mais merveilleux.
Ouais.
Mais oui, il y a eu beaucoup de doutes. Après, je pense que quand on a affirmé clairement que c'était notre choix, que ça allait le faire, qu'on en était capable, il y a beaucoup de gens qui ont basculé, quoi, et qui nous ont dit... Et c'est d'autant plus fort, c'est-à-dire que c'est d'autant plus fort l'adhésion au projet, l'adhésion à ce qu'on représentait, au pari qu'on a fait, est d'autant plus forte qu'il y avait ce doute préalable.
Ouais.
C'est-à-dire ceux qui nous disent « Ah non, mais on n'y a pas cru, mais le jour où on y a cru, là, c'est bon, on vous a fait confiance et on vous a suivi à 100%. » Et ça, je pense que ça a été un truc assez essentiel. Ouais.
Oui, parce qu'en fait, vous n'avez pas commencé en lune de miel, vous avez commencé dans la difficulté directe.
Ouais, après, moi, je le dis aux gens parce que je pense que ceux qui étaient là s'en souviennent, hein, mais... En vrai, on était fous de joie. On était dingos. Ben, j'ai pas vécu ce moment-là du tout comme un moment de difficulté. Ce qui a été difficile, c'est la transition, avant qu'on ait le lieu. Parce que c'est un processus qui est très long. Il a quand même fallu qu'on avait prévu le déménagement.
Ouais.
Et en fait, on n'a pas pu prendre la ferme tout de suite parce qu'il y avait des trucs administratifs qui nous ont... Donc, je me suis retrouvée à 27 ans à retourner vivre chez mes parents. En novembre, parce qu'en fait on avait fait un tour de France, on était allé voir plein de producteurs, mais en fait à un moment il fallait poser les valises et on attendait le go pour aller à la ferme. Mais pour un notaire, ah ben on voit ça après les vacances de la Toussaint, c'est 3 semaines, pour lui c'est rien, mais toi 3 semaines, t'attends 3 semaines, t'en fais plus de la vie en fait. Ces 3 semaines là sont les 3 semaines les plus longues de ton existence. Et donc du coup je me suis retrouvée quand même à 27 ans avec tous mes meubles dans le grenier chez mes parents qui étaient dingos, qu'on pouvait plus, en se disant mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'à 27 ans, notre enfant rentre à la maison et nous impose ça. Et du coup, voilà, il y avait quand même un truc un peu particulier. Et puis bon, en fait, ça s'est passé. Ils ont été très soulagés de nous voir prendre la ferme. Et quand on est arrivé ici, on était, mais... Enfin, pour moi, c'est les meilleures années de ma vie. Ça restera les meilleures années de notre vie. Enfin, c'est... Et pourtant... Il fallait dégeler le gel douche dans la salle de bain avant de se laver. Bien sûr que c'était complètement épique, mais c'était génial. À l'époque, on était frigane, parce qu'on n'avait pas un rond. Donc, on faisait les poubelles des supermarchés pour manger. Il y avait un truc tellement incroyable, tellement à 1000 km de tout ce que j'avais pu imaginer, que c'était hyper excitant. Moi, j'étais comme une gamine quand on allait faire les poubelles, quoi. Jamais de ma vie, j'aurais pu me dire « Oui, je veux dire, c'était un processus intellectuel qui n'existait pas, le friganisme. » Même d'un point de vue militant. Mais c'était un habitus très commun des ZAD et des squats. Et à un moment, on s'est dit « Oui, on lutte contre le gaspillage alimentaire, on n'a pas de rond, on va faire ça. » Et en fait, c'est devenu... c'était des trucs qui sont devenus normaux dans ma vie, mais en même temps, il y avait à chaque fois, avant d'y aller... voilà, et c'est Adrien qui a dit stop. C'est Adrien qui a dit non, maintenant, si on veut être cohérent avec nos valeurs, il faut qu'on mange bio. Et même si on n'en a pas les moyens, on va faire par l'entraide paysanne et par l'autonomie au quotidien la possibilité de le faire. Mais moi, j'étais partante pour tout. J'avais aucune limite. J'ai fait tomber vachement de barrières et c'était hyper excitant. C'était un moment qui était très... C'était un vrai moment de joie.
Ouais.
Pas sans... Il y a eu beaucoup de larmes aussi, beaucoup de déceptions, difficultés et tout ça.
C'était quoi, du coup, les plus grandes déceptions ou difficultés?
On a eu pas mal de contraintes administratives et techniques.
Ouais.
Face auxquelles on se sent très petit. Nous, on voulait faire un très gros chantier ici pour réhabiliter le café-librairie. On voulait faire tout nous-mêmes parce qu'on était plein de bonne volonté. Le jour où on a compris que la farge avait coulé une dalle défectueuse et qu'on allait prendre pour 2 ans de procès, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Quand on est allé chez un architecte la première fois et qu'il nous a dit « Bon, bah ok, si vous voulez faire ce que vous voulez, il faut sortir 200 000 euros », je suis sortie, j'ai pleuré. Je me suis dit « Ah non, c'est pas possible. » En fait, si. En fait, c'est ça. Et du coup, il y a eu pas mal d'étapes où on a été ramené à entre ce qu'on voulait faire réellement et les moyens qu'il allait falloir déployer et l'énergie qu'il allait falloir déployer et tout ça. Il y a eu pas mal de moments assez difficiles, quoi.
Ouais.
Mais en même temps, il y avait la place pour l'exprimer. Enfin, ça aussi, c'est quand même un truc assez dur. On pleure, on crie, on tape du poing sur la table, peut-être on boit trop un soir et puis le lendemain, on se réveille et on se dit « Bon, ok, maintenant, on fait quoi ?»
Ouais.
Et ça aussi, c'est fort de pouvoir dire « C'est trop dur. » Et d'avoir la place pour le faire et après d'avoir les gens autour qui vous disent « Mais t'es pas tout seul, t'as de la ressource, on va y arriver. »
Et c'était quoi le projet initial de la ferme par rapport à ce que c'est aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est le projet initial.
D'accord, génial.
Un café-librairie avec une ferme de plantes aromatiques et médicinales. Après, dans les choses difficiles, il y a aussi des trucs humains. C'est-à-dire qu'on a souhaité au départ un projet collectif dans la manière de le vivre. Et comme plein de projets collectifs, parce qu'on en a vu plein depuis, on s'est vite retrouvé à 2 porteurs de projets, quoi. Et à chaque fois qu'on a essayé d'associer des gens, il a fallu qu'on se rende à l'évidence que ce truc, on l'a porté à bout de bras depuis le départ et qu'en fait, il est à nous et qu'il y a plein de place pour des gens d'une autre manière. Mais voilà, et après, moi, une des périodes les plus difficiles, c'est que le Café Libéré, je l'avais imaginé avec un copain... avec qui j'avais fait mes études et on a choisi la ferme ensemble.
Et en fait,
on a choisi la ferme ensemble.
La ferme, d'accord. Ouais.
Tous les trois.
Ok.
Et en fait, il a fait le choix de partir. Il a fait le choix de partir pour suivre sa compagne qui voulait pas s'installer en Bretagne, quoi. Et bon, ils sont toujours ensemble. Ils ont créé un café librairie dans le sud de la France. Donc, je pense que voilà, c'était la vie. Ça a été, moi, c'était insupportable de voir que de me rendre à l'évidence que en fait, ça allait pas le faire. Et que de toute façon, on peut rien faire contre ces choix-là qui sont des choix intimes, perso, et c'est même pas qu'on peut rien faire, c'est qu'on doit rien faire. On doit l'accueillir, en fait. Et ça, ça a été dur. Ça a été très dur. Mais bon, voilà, c'est aussi le propre de ces histoires-là. Il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'affects. Et donc ça, c'est difficile, mais en même temps... heureusement qu'on arrive à continuer à faire confiance, à accueillir des gens, voilà, parce que c'est un processus. C'est un processus. Donc,
tu l'avais vécu un peu comme une sorte de trahison ?
Non, je l'ai vécu comme une rupture.
Ouais.
Voilà. Et c'était le cas, en fait.
Mmh.
C'était une rupture amicale.
Ouais.
Donc, et puis, moi, je vis la relation avec mes amis par le faire. Donc, c'est pour moi, l'intensité de la relation va être proportionnelle aussi à ce qu'on va construire ensemble.
Mmh.
Donc, c'est très compliqué. Le moment où la personne dit « je veux plus construire », pour moi, elle dit « je t'aime plus ». Donc, voilà. C'est... Maintenant, j'ai appris à faire autrement, mais il y a 10 ans, j'en étais pas capable.
Ouais.
Donc, voilà. Et puis on a appris aussi ce qu'impliquait peut-être notre énergie,
mm-hmm.
notre capacité à mobiliser des gens dans ce sillage, la responsabilité que ça impliquait, la part d'acceptation de l'autre, parce que par ailleurs on a eu 2 gens qui ont rejoint le projet puis qui sont partis après. Pour moi c'est ça l'essentiel, c'est ce moment où tu te dis il faut rester dans l'accueil, il faut rester dans la capacité d'ouverture, il faut Il faut avoir la même énergie pour accueillir les gens la première fois que la dixième. Et en même temps, il faut bien tenir compte du fait que c'est un processus qui va forcément peut-être amener les gens à prendre leur chemin après. Mais ça, je pense que c'est un truc que j'ai vécu aussi en construisant une forme de leadership dans le projet, en l'assumant. J'en ai beaucoup parlé avec d'autres chefs, femmes chefs, et pas seulement, parce que le monde de la cuisine, c'est un monde comme ça où on accueille beaucoup les gens, où on les forme, où ils participent de la structuration d'un projet qui est un projet qu'on porte soi, parce qu'un chef, il porte son restaurant, c'est un bébé, quoi. Hein, c'est un truc à son image, où on met beaucoup, beaucoup de soi, à la fois financièrement, en termes de temps, en termes de sacrifice de vie personnelle et tout ça. Et en fait, les gens après partent. Ils partent parce qu'ils vont ailleurs, parce que c'est comme ça, c'est la vie, parce qu'ils ont besoin de se construire et parce que sûrement, ils vont construire leur truc à eux. Et comment on accueille ça ? J'en ai beaucoup parlé, notamment avec Éric Guérin, qui est le chef de la Mare aux Oiseaux. Et Éric Guérin, il a une communauté qu'il appelle ses Piou-Piou. Donc, bah, c'est tous les gens qui sont passés par la Mare aux Oiseaux et c'est très fort, le lien entre eux est très fort. Il y a une très grande bienveillance. Et je lui dis, mais c'est génial, mais comment tu fais ? Comment toi, t'accueilles ça ? Le fait que tu donnes, tu formes, t'accompagnes, t'as besoin de ces gens. Parce qu'en fait, ce restaurant, c'est nous, notre projet, on ne l'a pas fait tout seul. Il y a plein de gens qui interviennent. Comment on fait, alors qu'on a tellement besoin d'eux, pour les laisser partir, sans avoir le sentiment d'être abandonné et sans avoir la peur de ce qui va se passer ensuite, quoi. Et voilà, c'est très... Et lui, il dit, bah, c'est ça. Si tu veux devenir un vrai chef cuisinier, si tu veux devenir le patron de ta boîte, tu dois savoir faire ça. Et c'est ça qui est le plus dur à apprendre. C'est pas cuisiner, c'est pas la gestion, c'est pas... C'est peut-être ça qui est le plus compliqué et c'est peut-être ça qui est le plus important, quoi.
Ouais.
Et voilà, je t'avais dit tout à l'heure qu'à la fin de mes études, j'avais créé une boîte sur le management et le leadership de formation. Et en fait, Richard qui formait les gens racontait plein de trucs. Et moi, j'étais un peu... Je comprenais intellectuellement, mais je ne comprenais pas réellement.
Ouais.
Et il y a des flashs comme ça, de moments de témoignages de ces managers qui... Parce qu'on travaille beaucoup avec le monde de l'hôtellerie, qui témoignaient de leur relation à l'autre, à la prise de décision, à l'accueil de l'altérité dans l'équipe... Et en fait, j'ai des flashs des fois qui me reviennent de ces témoignages-là parce qu'en fait, je les comprends 15 ans plus tard.
Ouais.
Et c'est... Bon, en même temps, voilà, c'est... Je pense que c'est des choses qu'on peut difficilement appréhender autrement qu'en les vivant. Ouais. Et je pense que c'est des choses qu'on peut... pour lesquelles il y a la nécessité de construire une démarche intellectuelle par ailleurs. Mais elle doit être expérientielle aussi pour prendre forme dans la vie, quoi.
Ouais, surtout qu'en plus, fonction de qui tu manages, c'est comme quand tu élèves 2 enfants ou 3 enfants. Enfin, t'es le même parent, mais en fait, en fonction de la personne, ça répond pas pareil, en fait.
Exactement. En fait, c'est chaque fois différent et ça nécessite à toi t'adapter. Et voilà, je pense que ça, c'est un truc essentiel. Et ça fait partie aussi des choses qui m'ont fait dire il y a 10 ans que être en position de responsabilité politique à l'âge que j'avais, avec le background que j'avais, avec les compétences humaines et managériales que j'avais, c'était pas le moment.
Ouais.
Parce que c'était une forme de responsabilité qui était trop importante et que je savais que je sentais que je ne saurais pas me débrouiller avec ça, que c'était une forme d'humilité. Alors bien sûr que je vois plein de mecs qui ne se posaient pas la question et qui y allaient quand même. Ce n'est pas la question. Mais voilà, j'avais besoin de construire ça. Et je sais qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses les plus importantes que j'ai apprises ces 10 dernières années.
Ouais.
Vraiment.
Et du coup, dans le salon de thé, il y a des pâtisseries, des choses comme ça. Comment ça se passe pour la création ?
Oui, nous, on est un café-librairie. Donc, on a... évidemment, un fond de bouquin sur la nature. On accueille les gens, donc on fait... évidemment, on a tous les produits de la ferme, puisqu'on produit les infusions sur place, mais on fait des infusions glacées, on fait du jus de pomme qu'on presse nous-mêmes, enfin voilà. Sur les boissons, on a une grande part d'autonomie. Et puis après, on fait effectivement des gâteaux, des desserts avec les produits de la ferme. Donc, je fais des gelées aux fleurs, aux plantes, des gâteaux, enfin voilà, d'un cake à la verveine... quelques oranges monardes, des choses comme ça. Après, c'est des choses assez basiques, hein, parce que au départ, on a tenté une activité de restauration, mais c'était beaucoup trop fatigant. On s'est dit qu'on n'avait pas fait tout ça pour ça.
Ouais.
Donc aujourd'hui, quand on fait de la restauration, c'est de l'événementiel.
D'accord.
Donc, clairement, avec le Covid, il n'y en a plus.
Ouais.
On garde ce lien parce qu'on y tient. À la commensalité, à la table. C'est pour ça que ce lieu s'appelle la table de la menthe verte. Hein. C'est parce que la table, c'est le premier espace où tu réunis les gens et tu fais du commun, où l'échange se fait naturellement, où tu partages. Enfin voilà, c'est un truc essentiel pour nous. Mais non, pour l'instant, et là, c'est de moins en moins moi qui gère en pratique le lieu.
Ouais.
Parce qu'au départ, c'était très segmenté entre ma partie sur le café-librairie et la partie d'Adrien sur la partie agricole. Mmh. Et que depuis qu'Adrien a essayé d'avoir un associé et que ça n'a pas marché, on a reposé vraiment les bases de notre relation de travail en couple.
D'accord.
Et donc, on a changé un petit peu aussi la façon dont on voit l'avenir, quoi.
Et donc là, du coup, comment vous dispatchez les choses aujourd'hui ?
Alors, l'objectif pour moi, c'est de revenir pleinement vers le volet agricole.
D'accord.
En gardant avec une perspective de long terme. Hein. Donc, au départ, j'étais... Et d'ailleurs, je me revendique comme paysanne, alors qu'aujourd'hui, je n'en ai pas le statut à la MSA. Donc moi, quand je suis arrivée, j'ai pas le diplôme, j'ai pas de capacité agricole. C'est Adrien qui a passé le diplôme quand on s'est installé, avec cette idée que moi, de toute façon, j'allais m'occuper du volet café,
okay,
et lui du volet agricole. Donc il s'est exploité. Au départ, il s'est installé comme exploitant individuel, et moi, j'étais conjoint collaborateur. Donc voilà, j'avais un statut, j'étais reconnue. Après la naissance de notre fille et l'ouverture du café, il était évident que il allait. Le modèle qu'on avait choisi au départ, en tout cas, allait être compliqué à mener avec moi à temps plein sur la partie café. Et donc on a choisi, enfin, Adrien a accueilli un associé qui est resté un an finalement, créé une société pour ça. Et donc, moi, je me suis un peu éloignée de cette partie aussi pour laisser la place à cette nouvelle personne qui arrivait.
Ouais.
Et quand Adrien s'est blessé, que Rudy a fait le choix de partir, on s'est vraiment posé la question de ce qu'on allait faire de tout ça. Après aussi, le café avait... On avait construit le café. Moi, j'avais moins de travail, j'avais plus la possibilité de déléguer que, évidemment, quand on crée le truc, on doit être à fond. Notre fille avait plus un an. J'ai allaité longtemps et tout ça. Donc, il y avait aussi des contraintes assez simples, hein, et pragmatiques de la vie quotidienne. Et donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on veut pour les 10 années à venir ? Moi, j'ai posé assez clairement le fait que je voulais écrire. Parce que cette compétence-là, c'était une compétence précieuse pour moi et que je ne voulais pas la perdre, que je voulais refaire de la politique. Et que, clairement, si je devais avoir une place plus importante d'un côté ou que de l'autre, ce serait du côté agricole.
Ouais.
Et donc, voilà. Déjà, depuis 2 ans, je gère une bonne partie de l'autonomie alimentaire du foyer. C'est pas agricole au sens de la MSA, mais dans mon quotidien, ça fait que je passe beaucoup de temps dehors et que je m'occupe beaucoup de la transfo aussi. Voilà. C'est un choix qu'on a fait pour avoir une alimentation qui...
Quand tu dis la transfo, c'est quoi ?
Eh ben, c'est transformer tous les produits issus de notre autoproduction pour assurer une partie de notre autonomie alimentaire sur l'année. Donc ça veut dire faire des bocaux, faire du séchage, faire de la conservation, des plats... Pour valoriser les produits issus de la ferme. Parce que ça demande du travail, en fait, tout ça.
Bien sûr, ouais. C'est un peu plus long que d'aller au supermarché acheter un plat tout préparé.
Exactement. Ouais. Donc, ça demande de faire des choix, en tout cas. Et voilà, et du coup, et après, la question, c'est... Bon, là, j'avais signé pour 2 bouquins.
Ouais.
Donc, il y en a un qui est sorti, il y en a un autre qui est en préparation. Et l'idée, c'est que d'ici les 2 années qui viennent, je puisse faire valoir ma compétence. Je me forme aussi, là. J'ai fait des formations pour la conduite des tracteurs, les trucs comme ça.
Super.
Parce qu'un des gros enjeux de la blessure d'Adrien il y a 2 ans, c'est que ça a mis à mal notre modèle très spécialisé. Moi, je venais en renfort quand il y avait besoin. C'est le principe du statut de conjoint collaborateur. Mmh. Je venais en renfort quand il y avait besoin sur les plantes. Je gérais la com... du café et du coup qui en découle des tisanes et j'assumais l'exposition médiatique extérieure. Au départ, je poussais beaucoup Adrien à faire ça et lui m'a dit pourquoi est-ce que les chefs sont tout le temps dans les médias alors qu'en vrai c'est leur meuf qui gère la boutique. Et pourquoi est-ce que tu m'imposes de mettre dans cette position-là? T'es féministe, alors assume-le. Ce projet, il se passe en toi, donc si t'as envie de le porter, porte-le. Donc moi, je suis plus sur ce volet-là.
Ok.
Et l'idée, c'est de revenir statutairement aussi dans ce chemin dans les années qui viennent. Donc voilà, ça c'est
parce
un peu
la perspective.
Du coup,
tu disais, il s'est blessé de façon grave.
Ouais, en fait, il y a 2 ans, Adrien a eu une rupture du ménisque pendant la saison agricole. Et une rupture du ménisque dans notre métier, ça veut dire qu'on ne peut plus travailler, en fait. Parce qu'à l'époque, on était très peu mécanisé.
Ouais.
On faisait plusieurs dizaines de kilomètres à genoux par saison pour planter, désherber, récolter. Et en fait, quand son ménisque a rompu, le médecin lui a dit « mais vous ne pouvez plus être à genoux ». Ce qui veut dire pour nous « vous ne pouvez plus travailler ». Donc, un mois après, son associé a dit, qui est arrivé depuis quelques mois, a dit « je vais partir ». Donc, ça a été une période très difficile. Ça a été un moment où on a eu le droit de se dire « est-ce qu'on arrête tout ?» Parce qu'en fait, c'était une des perspectives.
Ouais.
Et on s'est dit « non, on va continuer ». On veut continuer. Donc, on va se donner tous les moyens pour le faire. Donc, on a mobilisé notre réseau de soutien. Donc ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on est la ferme est en propriété collective. Quand on s'est installé il y a 9 ans, on a fait ce choix. Donc, on est 125 copropriétaires aujourd'hui.
D'accord.
Et donc, on avait déjà un réseau de soutien qui était assez fort et assez structuré,
qu'on
a mobilisé et qu'on a élargi à ce moment-là aussi nos clients, les gens qui avaient vu le projet se développer et qui voulaient que le lieu et la ferme continuent, ont été là pour nous soutenir. Et on s'est posé la question du coup de cette spécialisation, du fait que finalement, l'un et l'autre, on n'était pas très à même de gérer la partie de l'autre et que si l'un ou l'autre se trouvait en difficulté, comment on allait faire, quoi. Notre objectif de départ, c'était qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc il ne faut pas se fragiliser par le fait d'être trop interdépendant.
Ouais.
Et finalement, aujourd'hui, la question de la spécialisation, elle se pose notamment sur le fait que peut-être que je ne suis pas tous les jours à la ferme, même dans les années qui viennent, parce qu'en fait, j'ai d'autres engagements et j'ai d'autres envies.
Ouais.
Mais dans quelques années, si ça doit être possible, il faut que je puisse le faire. Ah. Et j'en ai l'envie.
D'accord.
Donc voilà, du coup, il y a un enjeu assez fort comme ça, qui est aussi une question importante dans la façon de vivre nos valeurs. Enfin, voilà, quand on est féministe, la place de l'un, de l'autre, travailler en couple, c'est pas du tout anecdotique en fait.
Ouais.
Hein.
Ah bah c'est impressionnant.
Ça pose des questions très intimes et au-delà de ces valeurs qu'on pose au départ, ben voilà, par exemple l'arrivée d'un enfant, avec la façon dont nous on avait envie de l'accueillir au monde, ben voilà, quand j'allaitais pendant 1 an, j'ai pas le même mode de vie que si je la mets à la crèche,
c'est clair.
Qu'il y a des biberons et que voilà. Donc il y avait des choix qui étaient aussi difficiles à faire, qui nous mettaient face à nos idéaux, qui nous mettaient face à tout ça. Et la vie a beaucoup interrogé où on en était par rapport à nos socles de valeurs.
Ouais.
Et nous a poussé à faire des choix, à adapter un peu ce modèle de départ. Donc oui, certainement, par rapport à ta question de tout à l'heure, le projet qu'on vit aujourd'hui est celui qu'on avait pensé au départ.
Mm.
Mais la manière dont on le vit est totalement différente.
Totalement différente. Ouais. Et ce qui est rigolo, parce que quand tu disais au début de l'interview que petite fille, tu voulais être pharmacienne, aujourd'hui vous faites des plantes médicinales, donc ça fait un beau petit clin d'œil.
Ouais, après nous on travaille, le soin est présent, mais on travaille quand même plus sur le goût, sur le volet sensoriel. Du coup, c'est peut-être plutôt la créatrice de parfums que je ne sais jamais qui est là. Mais oui, c'est sûr que c'est là. C'est-à-dire que on ne travaille pas n'importe quel matériau. Les plantes, ce n'est pas n'importe quel matériau. Et ça, c'est... voilà, ça m'a appris aussi... j'ai hésité quand tu m'as demandé l'objet fétiche. J'ai hésité avec la faucille. Parce que, bon, après, je pense que... Pour le coup, la symbolique marxiste est un peu compliquée à gérer. Et celui du tranchant de la lame me rendait aussi un petit peu hésitante. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a quelque chose de symbolique très fort dans le fait de travailler avec les plantes. Puis on n'est pas dans n'importe quelle région, on est quand même en Bretagne. Sur la transmission, voilà, aujourd'hui on parle beaucoup des sorcières. Je pense qu'il y a quelque chose de ça en fait. d'une forme de, que les plantes, elles nous donnent une forme de puissance, une forme de connaissance, une forme d'approche de l'autre par le soin, de bienveillance intrinsèque par le fait de recueillir le vivant, cette énergie, de le faire en conscience et puis après de le confier à d'autres. C'est différent encore de celui qui fait le pain et qui va nourrir. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de différent et je pense que c'est dans cet espace de différence ténue que se passe quelque chose, effectivement.
Ouais.
Quelque chose du côté du soin, en tout cas.
Et d'ailleurs, pourquoi la Bretagne ?
Parce que c'est une terre de lecteurs, parce qu'il y avait cette histoire, parce qu'il y a un réseau associatif qui est très fort, parce qu'on avait un lien affectif à ce territoire-là. On n'en est pas originaire ni l'un ni l'autre, mais on y avait tous les deux un lien familial.
Ouais.
Voilà. Et puis surtout, là, aujourd'hui, si on me demande pourquoi la Bretagne, parce que la Bretagne m'a accueillie, quoi. Mmh. Clairement, je pense que la force de ce territoire, en tout cas, c'est de nous avoir... C'est la base d'une culture forte, du pouvoir d'inclusivité d'une culture forte. C'est-à-dire que c'est pas une culture forte qui exclut, c'est pas une culture forte qui dit « ici, c'est chez nous » et du coup, ça veut dire ben, « vous en êtes pas ». C'est l'inverse de ça. C'est la culture forte qui te donne les clés, qui t'accueille, qui te demande même de l'accueillir et de la porter. Il est décédé maintenant, mais il y a quelques années, Albert Poulain, qui est une des figures de la culture galaise. Donc, on est dans la partie Haute-Bretagne, qui parle gallo, pas breton, qui collectait beaucoup et qui animait une veillée à côté d'ici. Je suis allée le voir et je lui ai dit, Albert, je cherche un accordéoniste en chromatique, parce que les gens jouent beaucoup de l'accordéon diatonique ici, pour reprendre des chansons populaires. Et il m'a dit, mais tu vas pas faire ça. Il ne l'a pas dit gentiment du tout. Mais tu vas pas faire ça. Hein, parce que la chanson populaire, les années 20, les années 30, c'est ce qui a tué la chanson traditionnelle. Ici, tu appartiens à un territoire. C'est chez toi. Tu dois défendre sa culture. Tu dois aller écouter les anciens. Et puis, c'est ta voix qui doit porter ce truc-là. Alors maintenant, tu viens le jeudi. Le jeudi, c'était le jour où on travaillait. C'était le jour un peu moins... Tu apprends les chansons. Hein, voilà. Et du coup, j'étais un peu en état de sidération. Je me suis dit, ah ouais, c'est hardcore quand même. Et en même temps, cette injonction-là, elle était très forte. Et aujourd'hui, je la vis pleinement, quoi. Je suis très heureuse de faire ce travail, de collecter, de partager, de faire vivre en veillée, mais aussi d'apprendre, de comprendre, de percevoir ce qu'il y a derrière. Parce que ces chansons sont aussi beaucoup des récits de conditions de vie, d'une vie. Paysanne, d'une vie difficile, d'une vie où la place des femmes, elle n'est pas celle qu'on avait aujourd'hui. Donc, c'est assez fort, quoi. Et en fait, je me dis, voilà, cette injonction, elle est quand même à la fois un peu brutale et en même temps très puissante parce que moi, je ne suis pas de là, que les gens le savent et que je suis arrivée à cet endroit-là par curiosité. Et on me dit, maintenant que tu es là, tu as les clés. Hein. On te donne les clés maintenant, tu dois faire le truc, c'est ton rôle. Et ça, je trouve que c'est une force. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très puissant, quoi. Donc voilà, la Bretagne, pour moi, c'est ça. C'est cette force d'inclusivité et cette terre vivante. Et puis voilà, c'est la terre que je travaille tous les jours, sur laquelle j'ai les pieds, dans laquelle j'ai les mains. Et donc voilà, effectivement, c'est à la fois un territoire que j'ai plaisir à dessiner et à accompagner. Voilà, c'est aussi l'idée de l'exode urbain et du récit que je propose sur la ruralité positive. Mais c'est un territoire qui m'a fait et qui m'a construit et qui m'a dessiné depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, je crois que c'est plus. Il n'y a pas de retour en arrière possible.
Ouais. C'est quoi la réussite pour toi ?
Ah, bah, c'est une très bonne question. Pour moi, la réussite, en tout cas, pour moi, le signe extérieur de richesse, c'est une grande table avec plein d'amis et sur la table, ce que j'ai produit à partager avec eux. Et c'est le sentiment de fierté et de joie de recevoir ça, quoi. Pour moi, j'ai l'impression que j'ai réussi ma vie si j'ai construit ça, si j'ai construit un réseau solide de gens différents que j'aime, qui m'aiment et qui s'apprécient entre eux et qui se respectent et qui se soutiennent. Et c'est la fierté de tirer de la terre un revenu et une manière de me substanter, même si c'est pas forcément en euros. Et c'est aussi de pouvoir apporter à d'autres la confiance et le courage de vivre des choses semblables. Donc, d'être capable de porter ce message et de le vivre pleinement et de garder une place pour ce qui m'anime, que ce soit la musique ou la politique, par exemple.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Claire de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ?
Je sais pas. Mais j'espère qu'elle dirait « je suis fière de toi ». D'ailleurs, je pense que je fais en sorte qu'elle me dise « je suis fière de toi ».
Ouais.
Ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi. Je pense que ça fait partie de l'essence de l'empowerment, quoi. Même dans l'échec, je suis fière de moi. Et c'est ce que j'encourage les gens à accueillir. C'est-à-dire que c'est pas grave de rater. On a un système scolaire tout pourri qui considère que quand t'as raté, t'es un loser. Non, quand t'as raté, t'as essayé. Et t'as pas encore réussi. Mais t'es pas un loser, du tout. Et que voilà, pour moi, il y a vraiment de ça.
C'était quoi, du coup, pour toi, le plus gros échec que t'es traversé ?
Il y en a plein. Je pense un des fondateurs et un des très violents, c'est l'échec de la boîte avec Richard à la sortie de mes études.
Ouais.
Et en même temps, pourtant, je savais qu'il y avait toutes les chances que ça merde, mais il y avait quand même un truc assez fort à ce moment-là. Et puis, il y en a plein. Enfin, voilà, j'ai eu d'autres histoires de couple avant. J'ai eu d'autres projets. Donc, non. Mais pour moi, il n'y a pas de vrai échec. C'est ça, le gros enjeu. C'est que les ratages, c'est la préparation de l'étape d'après. J'ai appris de ma première aventure entrepreneuriale qu'il fallait bien choisir ses associés. C'est pas une mauvaise chose dans la vie, hein.
Ah, au contraire.
J'ai appris d'aventures associatives que l'engagement, c'est un cycle. Et que tu peux être 10 000 autour d'une table à une occasion et autour de la même table un an plus tard, être plus de 10. Et c'est pas grave. Voilà, je pense que ça, c'est quand même des choses. C'est quand même des choses assez fortes. Et par exemple, pour moi, il n'y a pas d'échec en politique. Il n'y a que des leçons. Et puis, il y a tellement de facteurs exogènes que c'est quand même assez difficile de... Ah, c'est tout, c'est un processus. Il faut accepter de perdre pour gagner. Ça ne peut pas marcher autrement. Ça ne peut pas marcher autrement. Donc voilà, c'est une question à laquelle je suis... Et après, je pense qu'en vrai, j'ai une vie très privilégiée avec beaucoup de joie et des épreuves pas si difficiles. Donc... Je relativise aussi beaucoup. Je pense que pour le coup, quand il nous tombe des trucs sur le coin du nez, j'ai toujours tendance à bien remettre les choses en perspective par rapport à des expériences que j'ai pu, m'être partagées. Je pense qu'une des bonnes leçons que m'a donné cette année dans la jungle à Calais et le travail avec les personnes exilées, c'est que on est des sacrés privilégiés.
Ouais.
Et que bien sûr, on vit des drames intimes, bien sûr, on vit des pertes, bien sûr, le suicide d'un ami proche, le décès de quelqu'un qu'on aime, c'est des choses qui nous marquent pour la vie entière, en fait. Mais voilà, on vit dans un monde d'extrême privilège. Et c'est bien d'en tenir compte quand on est face à l'échec, notamment.
Ouais, à se le rappeler.
Voilà.
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. Pourquoi, pour toi, du coup, ça a été quoi les renoncements avec cette nouvelle vie ?
Waouh, il y en a eu plein, évidemment. Le rapport à la consommation, à la mobilité. Moi, j'ai été expatriée, j'ai vécu à l'île Maurice. il y a longtemps, certes, mais quand vivre à Sixuraf, prendre des vacances tous les 4 ans, j'ai été représentante des Verts français pour le Parti Vert européen, donc on allait un trimestre on était à Tallinn, le trimestre d'après on était en Grèce, le trimestre d'après on était en Espagne, etc. Donc avec cette extrême mobilité, ça fait partie des choses qui à l'époque me faisaient me sentir dans la dissonance, mais on va pas se mentir, il y a une forme de jouissance quand même, quoi, de se dire, ah, on est là, on est à l'endroit où ça se passe, on a des débats intéressants, finalement on fait tourner le monde. Donc renoncer à ça, c'était difficile, en fait. Est-ce que on est plus utile dans des grands espaces de pouvoir, ou est-ce qu'on est plus utile dans sa ferme tout seul, planqué dans son coin? C'est voilà. Donc je pense que le renoncement, c'était celui d'un modèle de réussite, c'était celui d'un confort au quotidien. Mais voilà, après, une fois encore, je pense que le fait que c'était si difficile avant, ça a fait extrêmement relativiser ce sentiment de perdre quelque chose. J'ai pas eu l'impression de perdre quelque chose, j'ai eu l'impression de gagner tellement que tout le reste est devenu totalement anecdotique. Mais il est clair que le confort matériel, c'est un enjeu fort, quoi. Après, pour moi, ça a jamais été... Je l'ai vu avec d'autres gens autour de moi pour qui c'était vraiment quelque chose d'essentiel. À la fois la sécurité financière et le confort matériel. Et je me rends compte que c'est pas mon sujet. Donc, même si des fois, j'ai des petites frustrations, bon, en vrai, je pense que c'est quand même, pour moi, pas si difficile que ça à gérer, quoi.
C'est quoi, du coup, la plus grande difficulté que tu as eu à affronter et comment tu l'as gérée?
Ma plus grande difficulté, et elle n'est pas encore tout à fait gérée, c'est mon rapport au temps. C'est-à-dire que j'ai été construite sur un rapport au temps où il fallait faire tout vite. Je pense que depuis que je suis petite, voilà, le fait que mes parents aient un rythme de travail très intense, le fait que j'ai plutôt réussi à l'école, enfin voilà, il y avait toujours un truc de la vie est un tunnel dans lequel on rentre. C'est Space Mountain. Ça monte, ça descend, ça va très vite. On est assis, on est attaché de toute façon, voilà. Et du coup, accepter, accueillir le rapport au temps du vivant, du reste de l'univers, c'est super difficile. Déjà parce que ça nous fait sentir microscopique et médiocre. Parce que quand on observe la vie des sols, quand on observe ne serait-ce qu'un arbre, il est là depuis 60 ans, il n'a pas bougé. Il a grandi tranquillement. Et puis, plus encore, quand on commence à s'intéresser à la géologie, à l'échelle du temps de l'humanité, en fait, on réalise que un an, c'est quoi dans une vie, quoi? Et c'est quoi un an de cette vie par rapport à tout le reste? Et du coup, dans ce truc d'immédiateté auquel on était habitué, auquel on est encore plus, il y a une injonction encore plus forte maintenant avec les réseaux sociaux, avec les dépêches, les trucs, les machins, je me demande vraiment... voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'essentiel qui m'appelle vers notre capacité à faire, à accueillir, à prendre le temps d'eux. Et en même temps, il y a toujours le reste du monde qui continue à dire « il faut que ça aille plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite ». Et donc du coup, je suis toujours happée par ça. Je n'ai pas encore réussi à le lâcher. J'arrive à concevoir aujourd'hui qu'il nous a fallu 10 ans pour faire ce qui me paraissait être faisable en 2 ans au départ, et c'est pas fini et c'est pas encore suffisamment solide. On le voit face au Covid, hein, on est très vulnérable, comme tant d'autres structures, alors qu'on se pensait solide. Donc voilà, je pense que ça c'est quelque chose. Et puis pendant longtemps, j'ai considéré que si ça n'allait pas assez vite, c'est parce que j'en faisais pas assez. Et donc je me suis beaucoup usée aussi à ça, c'est-à-dire que je travaillais plus, surtout en saison. On pouvait Et j'étais rincée après. J'avais que la peau sur les os. Il y avait ce truc de corps qui incarne ça. Alors pour le coup, c'était plutôt quelque part, il y avait une fierté parce que la vie paysanne, ça m'a musclée, ça a changé mon corps de la manière la plus positive qui soit.
Ouais.
J'étais très fière de ce corps-là. Et d'ailleurs, je le vois aussi dans mes amis, dans les gens qui m'entourent aujourd'hui. Parce qu'on va pas se cacher les choses. Hein. On arrive à la trentaine. Il y a aussi des virages un peu, voilà. Et je vois autour de moi les corps des gens, en fait, qui sont en bonne santé, qui sont bronzés, qui sont musclés. Parce qu'on travaille tous dehors, parce qu'on travaille beaucoup, parce que voilà. Et quand je vais en ville, je suis sidérée de voir l'état des corps des gens, en fait. J'ai presque mal pour eux, en fait. Et donc, il y a quelque chose comme ça d'une grande fierté. Et en même temps, il faut bien se dire que ça va pas pouvoir durer 10 ans comme ça, quoi. Donc, et là, enfin, je pense que à la fois, moi, j'ai pu avoir des moments de grande fatigue et de... Ouais, j'ai refait des crises de paludisme alors que j'en avais pas fait depuis très longtemps et tout ça parce que justement, j'avais trop tiré sur la corde. En fin de saison, on sent les limites, quoi.
Ouais.
Avec la nécessité d'accueillir le cycle de la saisonnalité. C'est-à-dire, on donne beaucoup en été, mais il faut accueillir l'hiver et l'automne comme des moments de récupération, de retour sur soi, de reprise de poids. Enfin, voilà, il faut...
Ouais. On recharge les batteries.
Ouais. Voilà, il faut... Enfin, comme, pour revenir vraiment à la base de, enfin voilà, on est quand même un peu des animaux, quoi. Donc, on va se refaire un peu de gras et puis on va repartir pour un tour. Et voilà, et en même temps de saisir qu'autour de moi, le monde fonctionne pas comme ça, quoi. Donc c'est voilà, c'est ce rapport-là, il est compliqué. Il est compliqué. Et aujourd'hui, on a au bout de 10 ans, on a repris notre carnet de rêves et on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? On l'a pris dans la crise, ce qui était pas facile. Parce que voilà, après la blessure d'Adrien, le départ de Rudy, le Covid, voilà, on est malmené, quoi. Et on se dit, bah, il faut garder l'espoir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a envie de faire des 10 années qui viennent? Il faut qu'on reprenne cette énergie, qu'on retrouve ce mojo, quoi, de début de projet. Voilà, finalement, le fait de l'interroger et de se reprojeter à 10 ans, alors que je pense que à 10 ans, on ne pouvait pas se projeter à 10 ans. On se disait, quand on sera grand, on voudrait que la femme ressemble à ça. Mais ça voulait dire, je pense que nous, temporellement, ça voulait dire dans 3-4 ans.
Ouais.
Et on ne pouvait pas s'imaginer que ça voulait dire dans 20 ans. Donc voilà, aujourd'hui, on l'accueille, on le vit autrement, mais je sais que ce n'est pas tout à fait réglé. C'est-à-dire que je sais que j'ai toujours une tentation à l'immédiateté, à l'accélération, et que ce truc-là, il faut que j'arrive à le dompter, quoi.
C'est quoi, du coup, vos rêves ?
Nos rêves aujourd'hui, enfin en tout cas nos objectifs, c'est d'avoir plus de temps pour notre autonomie au quotidien. C'est d'avancer sur la cohérence intime parce que la structuration de nos projets entrepreneuriaux nous a poussé à faire des arbitrages là-dessus assez forts. Donc on aimerait développer, on aimerait prendre des animaux sur la ferme. Ça fait 10 ans qu'on le dit, on ne l'a pas fait. Je sais qu'Adrien, il rêve d'avoir une vache. Et ouais. Du coup, moi, j'ai pas le même rapport aux animaux, peut-être plus distancié. Pour lui, c'est vraiment essentiel à son équilibre de vie. Donc, on veut accueillir des animaux sur la ferme pour faire de cette ferme un écosystème.
Ouais.
On veut planter des arbres plus. Mmh. On a déjà planté presque 1 kilomètre de haies et on veut planter plus d'arbres. En fait, on veut rentrer dans le temps long. Ouais. On veut accueillir le fait de rentrer dans le temps long et réfléchir aussi à notre retraite. Ce qu'on n'a jamais fait. Enfin, pendant longtemps, on n'a pas eu de statut, surtout moi, avec le statut de conjoint collaborateur. C'est un statut qui est un peu...
Ouais, c'est compliqué. Ouais. T'as pas le droit au chômage. Enfin, c'est assez complexe.
Ouais, c'est en fait le statut de la femme d'agriculteur classique, mais il n'est pas souhaitable. Donc voilà, il y a la question de comment est-ce qu'on se projette, y compris dans notre vieillesse.
Ouais.
Ce qui ne se posait pas du tout quand on avait 25 ans. Donc voilà, on a cette perspective-là qui s'ouvre aujourd'hui. Comment bien vivre? Comment se sentir heureux, épanoui? Qu'est-ce qu'on a envie de... Enfin voilà, les gens disent souvent, il y a ce truc de... pour avoir fait quelque chose de ta vie, il faut avoir fait un enfant, planter un arbre, écrire un livre. Bon, en l'occurrence, nous, on a checké ces points-là. Mm. Peut-être qu'à 20 ans, c'était un peu nos objectifs. Aujourd'hui... On veut que notre fille vive heureuse et qu'elle puisse faire les choix qu'elle a envie de faire. On veut que nous, on se retrouve dans notre manière d'évoluer dans ses métiers. On veut avancer dans notre couple et dans notre manière de vivre notre conjugalité, notre parentalité. Et on veut avancer dans notre engagement. Donc, et je pense qu'il y a quelque chose de très fort qui nous pousse vers le retour au collectif l'un et l'autre. Vraiment ce sentiment d'avoir construit un oasis de cohérence. Où on est bien. Il n'y a pas n'y a pas de sujet là-dessus. Franchement, on ne peut pas rêver mieux. Enfin, même si parfois c'est difficile, on a réalisé notre rêve, on le partage avec des gens merveilleux, on donne envie à d'autres de se lancer. C'est une chance inouïe. Enfin, c'est génial, en fait. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça. Et donc, du coup, il y a un truc paradoxal, c'est que cette crise du Covid, elle a réveillé à la fois ce sentiment d'avoir vraiment un oasis. Au moment du confinement, on s'est dit, mais en fait, on est ultra privilégié. Parce que oui, économiquement, clairement, on prend le bouillon. Mais en vrai, de quoi on a vraiment besoin ? Tout ce dont on a vraiment besoin, pas ce dont on a envie, c'est la couche supplémentaire, mais ce dont on a vraiment besoin, on l'a à notre disposition. Notre fille, elle nous dit, là, le confinement revenait, elle a dit, oh non, je veux pas arrêter l'école, puis après, elle m'a serré dans les bras, elle m'a dit, oh, maman, tu sais quoi, s'il y a un confinement, ça va être génial. On va faire du jardinage, on va se faire plein de câlins, on va faire des siestes. Et en fait, je me dis, si elle a vécu cette période-là, alors qu'en plus, nous, on a eu le Covid, que c'était très anxiogène, qu'elle a eu beaucoup d'angoisse de mort par rapport à ce truc-là, parce qu'elle entendait ça à la radio, puisque ouais. Notre voisine est décédée du Covid dans son EHPAD. Donc, il y a eu ce truc-là qui a été assez...
Et vous l'avez eu aussi tous les deux ?
Oui, nous, on l'a eu tous les trois, en fait, au tout départ, juste avant le confinement, le premier confinement. Et je me dis, si elle a gardé ça de cette période... que en fait le confinement c'est être au jardin, être ensemble, faire des câlins, faire la sieste parce qu'il fallait qu'on se repose parce qu'on était KO. On n'a pas trop merdé. Donc voilà, du coup en même temps, il y avait ce truc de se dire un oasis au milieu du désert, ça n'a aucun sens. Et que on a une responsabilité à partir de ce qu'on a construit ici, à partir de cette chose qui nous a permis d'être nous, personnellement, intimement et un peu plus largement bien, parce qu'on sait que voilà, ce petit collectif qu'on a créé, les gens qui viennent là, que ce soit nos clients, les copropriétaires de cette ferme, les gens qui appartiennent à l'association qui fait vivre le Café Librairie, les salariés, ils sont heureux de faire partie de cette aventure-là. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait pour ce qui se passe dehors, quoi ? Et nous, on s'est rencontrés quand même dans cet espace, le Camp Climat, il y a 10 ans, où on voulait faire des actions de masse, où on voulait sensibiliser, où on voulait renverser la donne, où on voulait permettre pour toutes et tous une vie meilleure et des perspectives d'avenir. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, à la fois dans la condition paysanne, ce qui anime Adrien plutôt, à la fois moi plutôt dans le champ politique plus traditionnel, on a envie de revenir au collectif et on en a besoin. Donc je pense que c'est ça ce qui nous attend pour les années qui viennent, c'est... faire en sorte de pérenniser notre activité, la consolider encore, pour nous laisser la possibilité de faire ça.
Et au moment où vous avez ouvert la ferme, c'était quoi tes plus grandes peurs ? Et comment tu les as traitées ?
Moi, j'avais peur de ne pas y arriver. Ouais. J'avais peur de ne pas en être capable. Et notamment physiquement.
Ouais, physiquement.
Oui. Je suis quand même arrivée ici, j'étais cassée. Hein. Il y avait eu Emmaüs, après il y avait eu les difficultés au boulot. J'avais très envie, mais j'avais peur de ne pas en être capable. Et après, il y a eu chantier. Mon Dieu, ce chantier. On est parti d'une ruine et d'une étable pour faire un établissement recevant du public aux normes. J'avais aucune compétence. Et aucune. Aucune. Ok, je savais faire des rétro-planning. Enfin, c'était tout ce que j'avais à ma disposition, quoi. Et puis j'étais femme. Et tous les intermédiaires, tous les interlocuteurs étaient des hommes. Enfin, c'était hyper compliqué. C'était hyper compliqué. Donc, il y a plein d'étapes où je me suis dit, est-ce que je suis vraiment cap ? Est-ce que je suis vraiment cap, quoi ? Et plus que la peur de l'échec du projet, parce que j'ai toujours cru sûr comme fer et que j'avais la confiance que ça pouvait se faire et tout ça, il y avait la question de ma capacité, moi, à le faire et de moi à le faire sans y laisser trop de plumes.
Parce que c'est ça, c'est quand on se grille les ailes une première fois, on se dit, on sait ce que ça fait, on n'a pas envie d'y retourner, quoi.
Exactement, exactement. Et on se dit, enfin en tout cas, c'est toujours ce qu'on s'est dit avec Adrien, on a vu beaucoup de gens aussi, sur des projets de réhabilitation de bâtis anciens, sur des projets artisanaux, sur des projets paysans. vraiment ruiner leur vie, quoi. C'est-à-dire casser leur couple, se blesser gravement, parce qu'ils voulaient trop, quoi. Ils voulaient trop et ils voulaient trop tout de suite. Et de voir des gens qui partaient avec des enfants en bas âge sur des retables de bâtis où tu vivais en caravane pendant 5 ans, des chantiers, des trucs d'enfer, quoi. Alors peut-être à la fin, il y en a quand même qui y arrivent. Je ne dis pas qu'ils n'y arrivent pas, hein. Mais où tu laisses tellement de plumes. Et à l'époque, j'ai lu un bouquin qui s'appelait La Communauté. C'est une bande dessinée chez Futuropolis, je ne sais plus qui est l'auteur, qui raconte l'histoire de Moulin Rôti. Moulin Rôti, c'est la marque de jouets, ouais. Super connue, hein, super mignonne. Mais en fait, surtout, c'est une histoire de communauté libertaire dans les années 70 qui s'installe dans ce moulin et qui crée une marque de jouets en coopérative avec plein d'enjeux parce qu'il y a plein d'idéaux et du coup, il y a beaucoup ce truc de l'intime, de la conjugalité, parce que c'est la libération sexuelle, parce que voilà, comment est-ce qu'on élève les enfants, comment est-ce que... Et il y a cette vie communautaire qui est un enjeu très fort. Et en fait, à la fin du livre, l'auteur, qui est donc le conjoint de la fille d'un des fondateurs, qui pose à son beau-père la question, lui dit « Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ?» Et lui, il répond « Non ». Le projet était utopique. Le résultat est quand même super, parce que c'est une boîte qui tourne, même si aujourd'hui, ce n'est plus les fondateurs qui le font vivre. Mais enfin, je veux dire, ils ont quand même donné lieu à une des références dans le monde du jouet en France.
Ah, c'est une très, très belle marque.
C'est une très belle marque, avec une super identité, avec une super image, où d'ailleurs, très peu de gens savent son historique.
Je ne la connaissais pas. Pourtant, mes enfants avaient beaucoup de jeux de chez eux. Mais,
mais en fait, lui, il dit que ça ne valait pas la peine. Quoi. Et ce terme-là, est-ce que ça vaut la peine? Et moi, nous, on voulait pas ça. On s'est dit dès le départ, on veut que le chemin soit aussi beau que l'objectif. Parce que si on passe 10 ans, 20 ans à réaliser un truc dont on est fier, mais pendant 20 ans, on en chie, on perd des gens, on souffre, on se met en difficulté, on aura merdé. Et on veut pas arriver à la fin à réussir l'objectif pour dire « si j'avais su, je l'aurais pas fait ». Et ça, c'est un truc qui nous a fait faire des arbitrages parfois difficiles, notamment sur notre niveau de vie. Parce que, par exemple, la vie paysanne et l'accueil d'un enfant, c'est compliqué. Il faut se dire les choses. En fait, ici, on a fermé... Moi, j'ai fermé le café-librairie en pleine saison estivale parce que j'en pouvais plus, parce que j'étais épuisée et puis parce que c'était la merde pour le chantier par ailleurs et tout ça. On a fait des arbitrages qui n'étaient pas des arbitrages en faveur de notre entreprise. Il aurait été bien mieux que je tienne bon la barre et qu'on continue à signer des feuilles de présence de 60 heures de Jeanne chez l'assistante maternelle, et qu'on dise « tant pis, on y va, c'est notre boîte qui compte », comme le font plein d'artisans et plein de commerçants. Mais on a dit non. Le chemin, c'est plus important que l'objectif. S'il faut 2 ans pour que le café-librairie se stabilise, il faudra 2 ans, mais pendant ces 2 ans-là, on va voir notre fille grandir. Et bien ça, ça fait partie des décisions qui n'étaient pas très faciles à prendre, mais qui nous ont... grandi dans le processus.
De quoi tu es la plus fière aujourd'hui ?
Je suis fière de plein de trucs, mais je pense que je suis assez fière du lien que ça a créé aux autres, ce projet. Je suis assez fière de la communauté, j'ai envie de dire ça, parce que c'est le mot qu'on utilise maintenant, qui s'est créé autour du projet, de ce que tous ces gens m'ont apporté comme soutien, de ce qu'on peut leur apporter aujourd'hui. Je suis assez fière d'avoir réussi à construire le jeu dans le nous. Voilà. D'avoir réussi à trouver un équilibre de vie intime, personnel, dans notre couple, dans notre famille. Et en même temps, d'avoir réussi à construire autour du collectif. Et ça, c'était un pari. D'ailleurs, c'est pas tout à fait fini. C'est pas un objectif, mais c'est pas un truc statique, c'est dynamique comme processus. Mais ouais, je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel, beaucoup plus que... Après, évidemment, enfin, voilà, aujourd'hui, je suis dans ce café, je suis fière de ce lieu, je suis heureuse d'y accueillir des gens. On est fiers de nos tisanes, on est fiers des chefs avec qui on travaille, qui reconnaissent notre savoir-faire et notre expertise. On est fiers d'avoir mené cette barque et on est fiers de voir que notre fille, nos parents, les gens qui nous aiment sont heureux de partager ça avec nous, c'est évident. Hein. Mais ouais, je pense que cette histoire d'arbitrage entre le rêve et la réalité aussi, et puis entre le jeu et le nous, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel et dont on est très fier aujourd'hui et dont je suis très fier aujourd'hui.
Ouais. Si quelqu'un n'écoute pas l'histoire et te rend compte et voit que bon bah avant Covid, on va dire tout roulait sur le papier et ils te disent mais en fait t'en es arrivé là exclusivement grâce à de la chance. Qu'est-ce que t'as envie de leur répondre?
Je leur dis non, clairement pas. Alors nous, pour le coup, la chance n'est pas un enjeu. Je veux dire, on a tellement cumulé les merdes de parcours que personne ne peut dire là que je suis là par chance. Enfin, ça, je pense que ça n'est pas. Nous, on est pour le coup, on a une forme de contre-destinée dans notre histoire, quoi. Donc non, je pense que personne ne peut dire ça aujourd'hui. C'est pas le fait du hasard. Et puis, on n'est pas une start-up, quoi. On n'a pas eu la bonne idée au bon moment. Puis, bim, ça a marché. Et puis, on a décollé. Je veux dire, le fait qu'on ait mis 10 ans à construire les choses, qu'il y ait eu tellement d'épreuves et d'écueils pendant le parcours qu'on ait su dépasser. Je pense que clairement, enfin, aujourd'hui, les gens ne disent pas ça. Après, moi, je suis pas croyante. Mais j'ai une forme de spiritualité qui m'amène à croire beaucoup dans le destin, quoi. J'ai tendance à penser dans les moments difficiles qu'il y a forcément un truc dans la vie qui va nous ramener à quelque chose de positif, et évidemment quand on l'attend il advient, parce qu'on va l'interpréter comme ça et on va se dire ah c'est sûr, c'est ça, une personne qui va arriver qui va nous proposer une solution qu'on n'aurait peut-être jamais saisie si c'était pas le cas. Et puis après c'est une gymnastique aussi, hein. C'est-à-dire saisir le destin, c'est une gymnastique.
Ouais.
Quand on a commencé le projet, on s'est fixé un objectif et une règle. Je donne pas beaucoup de conseils à proprement parler aux porteurs de projet, parce que tous les conseils qu'on m'a donnés, je les ai pas écoutés. Donc je suis pas à la rigueur, je veux bien partager mon expérience, mais je sais que ça n'est que mon expérience et je sais que chacun en fera bien ce qu'il peut et ce qu'il veut. Par contre, il y a un truc, nous, une règle qu'on s'était fixée qui a été essentielle dans le projet, c'est qu'à chaque fois qu'on nous a donné le contact de quelqu'un, qu'on nous a mis en lien avec quelqu'un, on est allé au bout de cette histoire-là. Enfin, on l'a. Et donc, c'est difficile parce que des fois, les gens ils disent « Appelle Jean-Pierre de ma part, c'est le beau-frère du neveu de mon cousin, il va t'arranger le truc. » Ou il va te donner des pistes, ou il va te... Et en fait, tu le connais pas, tu sais pas trop à quoi ça va servir. C'est quand même un peu compliqué d'appeler en disant « Oui, alors c'est Jean-Pierre, le cousin du neveu de ton beau-frère qui m'a dit que... » Donc, c'est toujours compliqué, en fait, comme truc. Et on s'est dit non. Si quelqu'un s'engage pour nous à nous donner le contact, à nous mettre en lien, on le fait. Peut-être ça mène à rien. Peut-être ça mène à un truc baroque qui sert à rien, mais au moins, on aura bien rigolé. Et puis, peut-être que ça va être un outil qui va nous permettre d'avancer. Et en fait, cette logique-là, elle nous a amené tellement de choses. Tellement pas ce qu'on attendait à chaque fois. C'est-à-dire que souvent, tu appelles les gens, enfin, en tout cas, on te donne le contact de quelqu'un parce que, je sais pas, tu as besoin d'une expertise technique, tu as besoin d'un conseil, tu as besoin d'un coup de main, tu as besoin, je sais pas, d'une perspective de clientèle ou je sais pas quoi. C'est rarement ce que tu viens chercher qui va, que la relation va créer. Mais le fait de créer la relation, c'est déjà tellement énorme. C'est déjà tellement énorme. Et en fait, avec ce projet, on a créé, en étant isolé dans notre coin, à Six-sur-Avre, dans notre petit bourg, on appelle ça le triangle des Bermudes entre Rennes, Nantes et Vannes, parce que c'est quand même, on est quand même dans un territoire qui est assez particulier. Et ben dans cet espace-là, on a créé moult relations à partir de cette règle, et bien au-delà de nos sphères et bien au-delà de nos frontières. Et du coup, je trouve que cette règle-là a beaucoup alimenté ce dont tu parles.
Et ça fait une bonne transition sur ma question d'après, sur le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne.
Bon, ben alors là, les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne, les gens, quand on monte un projet, ils donnent plein de conseils. Donc, on me les a tous donnés. Les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne, il n'y en a pas. On me les a tous donnés. On m'a dit, prends ton temps, écoute-toi. On m'a dit, construire un réseau solide, on m'a dit bosse ton business model, on m'a dit, enfin je veux dire, que ce soit technique, pratique, humain, managérial, les conseils, je les ai tous eus. Je suis allée les chercher, parfois je les ai subis, parfois j'ai dit non, j'en veux pas, on me les a donnés quand même. Donc, la question pour moi, c'est celle de à quel moment on accueille, comment on accueille les ressources qui sont mises à notre disposition. Et ça, hélas, c'est pas extérieur. C'est un truc qui se fait en soi. Après, être bien accompagné et savoir trouver des personnes pour en parler, c'est bien. Je pense que quand même, un des conseils qu'on donne souvent aux porteurs de projets, et là, je parle plutôt des porteurs de projets entrepreneuriaux, parce que moi, j'appelle les gens à faire l'exode urbain. C'est encore un autre sujet. Mais je pense que le parrainage ou le marrainage en toute chose est une bonne chose. Trouver des gens qui vont sur le long terme avoir un regard bienveillant et attentif à ce qui est en train de se passer, vers qui on va pouvoir revenir. Enfin, voilà. Donc, ouais, peut-être que c'est ça. Mais c'est pas un conseil à proprement parler. Peut-être que ça.
Si. Ouais, de toute façon, tout ce que chacun ressent résonnera forcément chez l'une ou l'autre personne qui écoutera. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait. Dans tous les conseils qui sont donnés entre guillemets de façon indirecte, chacun perçoit la chose de façon différente et c'est ça qui est intéressant aussi.
Ouais.
C'est quoi tes prochains défis du coup ?
Mon prochain défi, c'est de refaire de la politique institutionnelle. Je serai candidate aux élections régionales en 2021.
D'accord.
Et donc, je vais refaire le grand plongeon de ce côté-là. Et voilà, advienne que pourra.
À quel poste du coup ? Enfin, je sais pas trop. Je suis pas très forte en politique, donc tu postules pour.
Eh bien, je postule pour être la tête de liste des écologistes à la région. Je postule pour être la future présidente de la région Bretagne.
D'accord, super.
Voilà, ouais. Un énorme défi.
Ouais, génial. Bon, on s'en reparlera. T'as commencé du coup déjà la campagne ou c'est pas ?
Alors, la date des élections a été repoussée, donc pour l'instant, tout est en stand-by jusqu'à ce que. Mais a priori, ce sera juin de l'année prochaine, donc on D'accord. a le temps de construire le dispositif et,
ouais.
et d'imaginer collectivement comment on va porter ça, à la fois le projet et la dynamique démocratique, parce que c'est un enjeu très fort aujourd'hui.
Ouais, et puis j'imagine que du coup, arriveront par la suite, si ça marche. Plein de questions par rapport à votre vie de famille et entrepreneuriale.
Ouais, après ça, il y en a beaucoup qui ont été arbitrés. Ça fait très longtemps qu'on en discute avec Adrien.
Ouais.
Donc voilà, on a plusieurs scénarios en fonction de ce qui se présente et on est prêt. On est prêt.
Super.
Et je suis très soutenue.
Ouais.
Et par Adrien et par Jeanne dans ce processus.
Ah, c'est chouette ça. Ouais. Ouais, c'est hyper important parce que, j'ai interviewé Caroline Abadie, donc, qui est aujourd'hui députée et qui n'avait absolument jamais fait de politique de sa vie, en fait, avant de se présenter, en fait. Et clairement, c'était une aventure familiale si son mari, ses enfants ne l'avaient pas soutenue, elle ne serait pas allée jusqu'au bout, quoi, même si elle était animée d'un truc très, très fort en elle.
C'est essentiel. Bon, après, l'avantage, c'est que moi, je sais les contraintes que ça implique. J'en ai bien conscience, et pour la campagne et pour le mandat.
Ouais.
Donc, ça permet de le préparer et ça permet d'en parler sereinement et ça permet de le peser. Et voilà.
Ouais.
Donc, il s'est posé la question, par exemple, que j'aille aux élections sénatoriales et il était pas compatible pour notre vie de famille et pour l'âge de Jeanne aussi que je sois 4 jours par semaine à Paris. Hein, ouais. Donc voilà, par exemple, c'est une décision qu'on a prise. Un mandat et oui, la présidence de la région, c'est très engageant, mais ça implique aussi une proximité géographique qui permet de maintenir un cadre familial comme celui qu'on souhaite. Donc voilà, c'est des enjeux comme ça qui se posent et qui doivent se poser avant de s'engager. Parce que sinon, pour le coup, j'ai vu beaucoup de gens se perdre dans ça. Dans leur vie d'élu, hein. Donc ça fait partie des choses aussi qui étaient des préalables pour moi avant le retour à la vie politique.
Ouais. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
Waouh. Alors quand j'ai écrit ce livre, quand j'ai écrit mon livre, l'Exode urbain, il y a la page des remerciements. Et il y a 4 pages de remerciements, je crois. Et mon éditrice m'a dit, mais vous êtes dingo. Normalement, on met à mon père, à ma mère, à ma belle-sœur, à ma meilleure pote et à mon prof qui m'a aidée dans la vie. Et en fait, Éric Lenoir avait fait un texte déjà assez long sur le sien. Et du coup, je me suis dit, non, en fait, l'enjeu pour moi et l'enjeu de ces pages de remerciements qui n'en finissent pas, c'est qu'un projet comme le nôtre, une vie comme la nôtre, on ne la construit pas seule. Et on la doit à tant de personnes. On ne peut pas faire ça seul. Et donc, en fait, quand on doit dire merci, on a une seule peur, c'est d'oublier quelqu'un. Parce que, en vérité, moi, je ne peux que dire merci à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance, qui nous ont accompagnés à chaque étape, qui nous ont aidés à nous relever dans la difficulté, qui nous ont apporté l'ingénierie, le soutien moral, le coup de main, le support technique, qui nous ont appris les choses, qui nous ont transmis les savoirs, qui nous ont offert Philippe Injardin, Christophe le lien à ce village, qui nous ont transmis leur histoire, qui nous ont accueillis dans ce chemin. Enfin, voilà, c'est pour moi, dire merci à une personne, c'est impossible. C'est un impossible, vraiment. Mais je pense que c'est ça aussi le rapport, quand je disais entre le nous et le je. Moi, je dois ce que je suis aujourd'hui à un collectif. Et en fait, c'est ça dont je suis fière, dont je suis fière, vraiment. C'est que je ne peux pas dire merci à une seule personne, je dois merci à tant d'autres.
Donc, on prend ton livre et on relit les 4 pages.
Ouais. Et je suis sûre, malgré tout, que je sais que j'oublie Jean-Philippe Dussart, qui était le mec qui nous a accompagnés au tout début du projet, qui a permis le portage foncier et tout ça. Après, je me dis, non, ah non, je l'ai oublié. Ah non, trop dur. Mais voilà, il y a toujours, voilà. Et surtout, c'est pas... y a des gens qui sont là pour être, à un moment, le levier et qui n'interviennent dans ta vie que peut-être pendant quelques semaines, mais qui vont jouer un rôle tellement important. Ouais. Il y en a qui sont là tous les jours. Il y en a qui sont là une période avec lesquelles il y a une rupture, mais qui parfois ont participé à construire ce que t'es. Voilà. Il y en a qui sont là par moment, par intermittence, et puis tu attends leur retour, mais ils sont là quand même parce que le moment où ils ne sont pas là, ils sont quand même dans ton cœur. Donc voilà, je pense que c'est l'essence de mon rapport aux autres. Cette interdépendance est très très forte. Et je pense qu'on ne fait pas ce qu'on fait nous aujourd'hui sans ça. Mm. Ça fait partie de ce chemin, quoi.
Ouais, ce qui est fou, c'est que c'est qu'en fait, on pourrait se dire, quand tu vis en ville, tu es au milieu de milliers, si ce n'est de millions de gens, en fonction de la ville où tu vis. Et vous vivez à la campagne, mais en fait, c'est là où finalement vous avez il y a le plus de richesse humaine, en fait.
Ah, mais c'est ce que je dis. J'ai jamais eu autant d'interactions sociales aussi qualitatives avec des gens aussi différents que depuis que je vis ici. Ouais. Et oui. L'individualisme, on en parlait tout à l'heure sur l'histoire de pourquoi on laisse pas les enfants partir dans la rue. L'individualisme crée énormément de solitude. De la solitude dans des espaces où par ailleurs il y a pléthore de gens. Ouais. Et voilà, j'avoue que j'accueille en même temps le monde tel qu'il est. Enfin, en fait, j'ai pas envie de passer pour une vieille réac, mais j'ai du mal à me dire que les gens ne comprennent pas l'essence de ce que représente du temps passé avec des voisins, de l'entraide sur des chantiers, de ce qui se joue dans ces moments-là. Mais en même temps, quand je suis venue vivre à la campagne, c'est pas ce que je cherchais. Hein. Comme beaucoup de gens cherchaient un cadre de vie, cherchaient la nature, cherchaient du temps, cherchaient une bonne qualité de sommeil. Je me suis pas dit... je pouvais même pas percevoir la valeur de ça, la valeur de trouver une excuse pour bricoler un truc ensemble pour après passer des heures à table et faire goûter le truc qu'on a préparé, fermenter. Enfin voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est indicible, qui nécessite d'être expérimenté pour pouvoir lui donner sa pleine valeur. Et une fois que les gens l'ont vécu, ils ne partent plus. Ils ne repartent plus.
Ouais.
ils savent ce que c'est et ils veulent retrouver ça toujours.
Un grand, grand merci, Claire. Et puis, bon, je te souhaite évidemment plein de bonheur et puis pour la suite. Et on reste en contact pour que tu nous racontes tout ça.
Merci beaucoup.
Merci.
J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Rendez-vous sur Instagram sur pourquoipasmoi.co ou sur le blog www.pourquoipasmoi.co pour obtenir tous les liens pour suivre Claire. Je vous dis à demain dans la newsletter. Et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?